I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant de passer un bon moment, n'hésitez pas à venir nous voir dès janvier 2023. On fait la tournée des Zéniths avec Navo. Navo sera en première partie. Ce sera l'occasion de le découvrir sur scène pour ceux qui ne le connaissent pas. Et venez, c'est les dernières de Une Bonne Soirée. Après, il n'y en aura plus. Beaucoup de gens m'ont dit « Putain, on a raté Pulsion. Ne ratez pas Une Bonne Soirée. Janvier, dans toute la France. Et on fait deux dates en Belgique aussi. Bisous !» Bienvenue dans un bon moment, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours accompagné de mon fidèle Naruto Navo, parce que tu étais vraiment Naruto. En mode Naruto.
Ah, mais j'ai jamais vu là. Naruto.
Ouais, bah c'est à peu près ce délire-là, ouais.
Ok.
Voilà. Ou téléporteur.
J'ai imité Eric Zemmour, mais j'ai raté du coup. C'est comme ça.
Plus soucieux.
Mmh. Des choses
de ce monde. À un moment donné, Cherokee faisait un peu ça, genre.
Un truc
oui, sur oui,
le
oui,
truc. Un peu la zizanie, tu vois.
Et les doigts, comme ça, toujours.
Tu vois, c'est vrai, il fait ça.
C'est marrant.
Comment ça va, Navo?
Eh ben super, malgré tout ce qui se passe en France. Non, je suis encore dans l'examen.
Je suis aujourd'hui accompagné de l'équipe de Brout, Yes Vous Aime, Martin Arondo, Pauline Clément et Bertrand Huskla. En plus,
bonsoir.
Comme ça dit, on
bonsoir.
Parce que là, on est cinq, on peut avoir un effet d'applaudissement. Quand il y a qu'un seul invité, ça fait genre...
Ouais, c'est un peu la loose.
Non, mais ravi d'être là. Merci déjà, merci d'avoir fait...
Merci à vous, les gars.
T'es ravi d'être là? Parce que t'as dit ravi d'être là.
Je suis ravi d'être là déjà, parce que je suis ravi d'enfin pouvoir un peu discuter, parce qu'il y a un côté un peu les nouveaux inconnus, je trouve. Je sais pas si c'est un compliment. Vous avez ce côté un peu... je sais pas, il y a cette troupe qu'on retrouve généralement. J'ai pas envie de déclencher, c'est Mustapha Ben Aibout.
Oui.
Et Johan Cuny.
Exactement.
Et donc, il y a...
Et Guillaume Cremonaise, qui est le padré, le patron.
Ça a été quoi le déclic pour se mettre à ce métier? À un moment donné, vous dire, on va faire marrer les gens et on va faire acteur, actrice, auteur.
Autrice. C'est au cas où il y a des gens de Twitter qui regardent, moi je...
Non, mais je suis totalement pour dire autrice. Pauline, je crois que tu as un parcours qui est complètement... comment on fait une bonne marqueterie
Alors moi, mon parcours...
Ouais, voilà, t'as été...
J'ai un peu galéré.
Ouais.
En fait, du coup, alors, je sais pas si d'où je repars, je vais faire concis. Mais comme j'ai redoublé mon CE1, hein, c'était un peu mal parti, parce que je suis dysorthographique, dyslexique, peut-être un peu dyspraxique.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Dyscalculique aussi ou pas?
Dyscalculique, complètement. Donc ça veut dire que, en fait, c'est une espèce de trouble dans le cerveau, quoi, un truc qui se connecte pas ensemble. Je pense qu'on va dire que je suis bête, mais ça n'a rien à voir avec la bêtise.
Non, rien à voir, non, je pense pas. Non.
Et en fait, du coup, j'écris avec des fautes d'orthographe. Et ça, je l'ai complètement assumé. Ça a beaucoup gêné les autres, mais moi, vu que je me comprenais et que je comprenais les textos des autres, ça ne me gênait pas. Quand j'envoie un texto, que je mets une faute, ça ne me pose pas trop de problèmes. Mais voilà, c'était compliqué. Les calculs, pareil, je m'embrouille. Je me dis, attends, je ne comprends plus rien là. Et là, parce que, attends, il y a combien de zéros? Même quand j'ai regardé pour acheter un appartement, j'étais là. De 3-0, donc 3-0.
C'est pour ça que c'est elle qui l'a engagé. Hein.
Pour les salaires,
un cachet à 10 euros.
Génial, merci les gars, trop cool.
Si tu m'engages pour la compta.
Un million, c'est génial.
Et du coup comme j'ai été un peu en galère, je me suis mis un peu en rébellion contre l'école. Du coup, je me suis retrouvée assez vite dans les écoles, le CM de bleu, tous les trucs un peu soutien, le truc un peu en parallèle.
Quand c'est des couleurs, c'est pas bon signe?
Non, quand c'est CM de bleu, c'est pas bon signe.
On dirait, les couleurs, ils aiment bien, on va leur donner des couleurs. C'est plutôt mignon.
C'était pas très bon signe. Et après, j'ai fait une école de mécanique. Enfin, on m'a dit qu'il fallait aller dans un truc professionnel ou chez les bonnes sœurs ou en mécanique.
À ce moment-là, t'es où en France?
En fait, j'habitais dans l'Essonne. Et mes parents se sont dit on va aller à Paris parce qu'on a fait toutes les écoles qui étaient possibles à faire. Quoi. Donc, il faut qu'on aille à Paris parce que là, il y a plus de choix. Donc, déjà, ils m'ont envoyé en internat, mais c'était la cata, je voulais rentrer chez moi. Bref, et du coup, j'étais à Paris et on m'a mis dans une... Enfin, on m'a dit, tu veux être dans une école de mécanique ou de bonne sœur. J'ai choisi mécanique. Donc là, j'ai fait... j'ai travaillé pour être menuisière. Alors, ma mère me disait, super, tu vas faire l'école boule. Moi, je disais, oui, super.
L'école boule.
C'est une grande école de bois. Je crois qu'elle voulait que je fasse une grande école. Donc,
c'est
elle s'est dit...
Quand il fait chaud. On nous appelle l'école boule.
D'accord, ok.
J'ai entendu un « Oh non !» Oh non, il l'a fait.
Donc là, t'es un peu perdu dans ta tête. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Tu dis « Bon, bah là, j'arrive pas à trouver ma place. »
Dans ma tête, je suis paumée. Je suis dans une école avec que des garçons. Je suis la seule fille. C'est la cata. Donc, je fume des clopes. Je me fais des copains, mais je me préoccupe pas du tout de ce que je vais faire plus tard.
T'as 16 ans, 17 ans, là.
Oui, voilà. Okay. Après, tout d'un coup, je commence à faire des crises d'angoisse, faire des malaises tout le temps, un truc à répétition, je peux plus prendre le métro toute seule et tout. Je me dis, où ça va pas? Et là, j'ai dit à mon père, je vais changer de style. Et je me suis habillée différemment. Et je suis partie...
La solution quand t'es adolescent.
Oui, je pense.
C'est
vrai
que c'est la solution.
Après l'été, je reviendrai avec un autre style.
Je suis skateuse. Je suis skateuse.
Ça, c'est à l'époque où tu décides. Et à un moment, je me pose vraiment la question. C'est quoi mon style? Comment je vais m'habiller? Ça m'importait beaucoup. Et donc là, j'ai dit, je vais changer de style. Et j'ai complètement changé de style. Et je suis allée dans une école d'esthétique avec, que des filles. Où là, c'était hyper strict. On nous parlait que de l'examen. Le jour de l'examen, n'oubliez pas.
Une école d'esthétique, c'est quoi? C'est pour être
Esthéticienne. Okay. Ouais. Et là, c'est très focus sur l'examen. Soyez bien coiffée, soyez bien... N'oubliez pas d'avoir les ongles faits, d'être toujours légèrement maquillée. Voilà, on parle comme ça. Donc, j'y croyais. Je me suis dit, je vais travailler dans un spa. Je serai dans la détente. Même dans le bus, je me disais, ah, je la verrais bien maquillée en violet. Enfin, je mettais un petit peu d'artistique là-dedans. Et finalement, j'ai fait du théâtre.
Comment t'as fait donc l'esthétisme, tu passes à côté, tu dis non,
c'est pas
pour moi.
C'est vrai que c'est un peu dommage, tu nous as fait vraiment tout le parcours, après je fais du théâtre.
Ah oui, c'est
une comédie française, voilà.
Ah bah c'était ce mot.
Voilà, je suis là aujourd'hui.
Non, alors du coup, déjà je m'étais inscrite dans un cours, non, j'avais demandé à ma mère de m'inscrire dans un cours de danse orientale.
C'était en danse orientale, mais c'était en toi de faire un truc artistique, du coup tu t'es dit, il y avait un truc, parce que le fait d'être perdu dans les institutions, genre... Bon, bah, l'école, c'est pas pour moi, visiblement, le bac pro, les trucs professionnels. La manutention, c'est pas pour moi. Les trucs, l'esthétisme, c'est pas pour moi. À un moment donné, tu dis, je vais faire de la danse, je vais faire autre chose.
Esthétisme, c'était pour elle, ça. Hein.
Ouais, esthétisme, c'est que tu te dis, un moment, okay, j'y croyais. Ouais, je me suis mis à fond, j'étais hyper bosseuse. Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Et puis, j'étais un peu fatiguée. Je trouvais que c'était des fois un peu, je sais pas comment dire. Un peu bête des fois. On était toujours sur le n'oubliez pas, un léger eyeliner le matin. Ça me fatiguait un peu. Je voyais un truc où je me disais quand même, c'est pas très important. Enfin,
c'était pas épanouissant pour toi.
Oui, c'était pas très épanouissant. Et tout le temps, l'examen. Oui, voilà.
Ça ne pas juger l'autre, voilà, ce que tu
pour
ressens.
Pour pas juger l'autre, pour toi, c'était pas épanouissant.
J'étais pas complètement épanouie. Je comprenais pas pourquoi on mettait autant de pression pour l'examen. Mais bon, l'examen, le jour de l'examen, j'étais carrément allée prendre un rendez-vous chez le coiffeur et on m'avait fait un chignon. J'ai repassé ma blouse. Enfin, je m'étais mis à fond. Mais j'avais commencé à faire du théâtre où là, j'avais retrouvé des gens qui étaient plus des.
Comment tu t'es mis?
Parce que je voulais faire la danse orientale. Ma mère m'a dit, ce serait bien que tu fasses une activité extrascolaire. Et j'ai dit, c'est la danse orientale que je veux faire. J'adore ça, ça a l'air hyper beau, je veux faire ça. Et elle m'a dit, j'ai pas trouvé de cours. On est bien le sixième, j'ai pas trouvé de cours dans le quartier. Est-ce que tu veux pas faire du théâtre? Et j'ai dit, bah, je vais aller au truc, mais c'est chiant parce que c'est.
Ah, donc c'est par hasard alors? C'est vraiment par hasard?
Oui, voilà. Puis je suis arrivée dans un cours.
Par dépit.
Oui, par dépit, je suis arrivée dans ce cours. Et puis la prof, en plus, je me souviens, elle m'a dit tout de suite, il faut articuler au théâtre, il faut parler plus lentement. Et j'étais genre, oh,
c'est plus facile d'articuler quand on imite quelqu'un, quand on incarne quelqu'un. Parce que tout de suite, t'as pris une articulation beaucoup plus, une diction beaucoup plus large.
En imitant.
Vous voyez que vous en êtes capable lorsque vous vous moquez de moi.
Finalement. Donc, je suis arrivée à ce cours et au début, j'ai galéré. Il n'y avait que des exercices, genre, les chaussettes de l'archiduchesse se tombent archi-sèches.
Pour le coup, tu l'as pas eu, celui-là.
On a fait un projet sur celui-là, apparemment.
C'était un cours où tu payes, il n'y a pas d'audition. Donc j'étais à ce cours-là. Et puis on faisait des impros. Et puis j'ai adoré ça. Et chaque semaine, je pensais qu'au cours de théâtre, j'étais en mode obsession.
Mais du coup, en tant que dyslexique, toute la partie où il faut apprendre du texte et tout, comment tu arrivais à apprendre le texte? Ou du coup, tu disais putain, il faut que je m'y mette 5 jours avant parce que c'est long à lire.
Comme c'était un cours, en fait, comme c'était un cours amateur et qu'on faisait tous notre école à côté, il y avait les exercices hyper durs de l'archiduchesse. Là, quand c'était mon tour, c'était la cata. Mais j'ai surpassé ça. Parce que mon frère qui est dyslexique, il allait au même cours. Et je crois qu'il s'est arrêté à cette étape. Il est arrivé le premier jour, on lui a dit de dire une phrase compliquée. Il a bugué 5 fois, il a eu honte, il est plus revenu. Wow. Mais j'ai dépassé ce stade. Et après, on faisait beaucoup d'impro. Et il y avait juste un spectacle à la fin de l'année. Mais comme on était très nombreux, on avait une toute petite scène. Okay. Et moi, je jouais, je disais tout très vite, je disais mon texte très vite. Et puis mes parents disaient bravo, t'as pas tout compris, mais bravo. Donc c'était pas. Les gens ne disaient pas, waouh, t'es vraiment faite pour ça. Il n'y avait pas une. Mais moi, j'étais un peu obsédée par le cours. Et surtout par les impros. Je me disais, ah, nous a donné cet exercice. Je devais faire une prof de piano. Mais en fait, ce que j'aurais pu dire, c'est que. Ça marinait toute la semaine. Et à un moment, j'ai dit à mes parents, je vais peut-être faire une année sabbatique pour faire du théâtre. Et ils m'ont dit OK. Et je me suis inscrite au cours Florent. J'ai cru que le cours Florent, c'était le truc de fou parce que je connaissais que ça.
Bah oui, il y avait ce fameux reportage dans les années 2000.
C'est le plus connu.
Ouais, on avait vu le tout. Donc moi, j'étais
c'est le plus connu, ça doit être le meilleur.
Donc je suis allée au cours Florent. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis dit, c'est chouette. J'ai plus de devoirs, j'ai plus rien à faire, mais je vais plus rien foutre. Donc j'ai été très contente, mais je faisais rien du tout.
Quel âge t'as à ce moment-là?
Là, j'ai
37.
18. J'ai 18, je crois. Donc là, je me fais des copines et tout, mais je suis pas très. Je me pose pas trop cette question. Est-ce que je vais faire ça vraiment? Mais je me dis liberté, l'école est terminée, on verra bien ce que je ferai plus tard. C'est super, je m'amuse. Et après,
t'as vraiment pas du tout envisagé que c'était une école en fait.
C'est fou.
C'est que comme il y a pas de dignité, t'as dit c'est bon.
Pour moi, c'était plus l'école justement. Ouais,
t'as suivi l'amusement. Quoi.
Ouais, c'était la fin de l'école.
C'est bien, donc c'est le début du théâtre, l'amusement généralement. Quand tu t'amuses, c'est le début du théâtre.
Ouais, voilà, je commençais à m'amuser et me dire c'est chouette, j'ai rien à faire, si je veux pas passer, je passe même pas. J'étais pas du tout la fille qui dit je veux passer, je veux faire ma scène. J'étais genre c'est cool, si je veux ne pas passer pendant une semaine, je passe pas. Sauf qu'en fait, eux ils s'en foutaient parce que moi je payais. Et moi j'étais, on me demande rien, ils sont, c'est génial. c'était pas le.
Ils ont pas vu l'arnaque. Ouais. Ah, je les ai eus. Je les ai bien eus.
C'est ça. Je croyais que je les avais eus en fait. Je pense que c'est eux qui m'ont eu.
Je les paye et j'apprends rien.
Et donc à la fin de l'année, mes copines ont dit, bah voilà, à la fin de l'année, on est 3 ans. Elles m'ont dit, voilà, on a fini Florent, bah on va travailler. Et moi, je me suis dit, bah merde, je connais personne, j'ai aucun contact.
J'ai pas joué une scène.
J'ai joué quelques scènes, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, bah j'ai qu'à m'inscrire dans une autre école. Donc, je me suis inscrite dans une autre école où j'ai croisé Bertrand en deuxième année. Et Bertrand m'a dit.
C'était quoi comme école ça?
C'était le conservatoire du 8e.
Ah, okay.
Et Bertrand, il était déjà en mode, il sortait de. Il avait passé Sciences Po, il avait raté 3 fois, il était en mode réussite.
Ah, moi j'ai 7 fois.
Parce que
j'ai 7 fois sur mes fiches.
Qu'il y a les IEP de province. J'ai fait d'accord. Ma tournée.
Tournée de la loose.
Tournée
de la loose
partout.
Dans
van voilà. Volkswagen.
Voilà. Exactement. S'il y a un IEP dans votre ville, je serai présent les 18 mai pour rater.
Donc, toi, je croise Bertrand qui, lui, il fait du théâtre depuis 1 an. Alors que moi, j'en fais depuis 3 ans. Mais lui, il est en mode les concours, tu les passes? Je suis là, ouais, je suis inscrite. Super. Alors, c'est qui tes répliques?
Il t'a dit voilà le plan.
Il m'a dit, t'as pas de stratégie. J'étais là, bah non, j'ai pas de stratégie. J'ai jamais de stratégie. Moi, je me souviens que mes copines m'avaient dit, tu passes les concours d'école. Au début, je m'étais dit, ouais, je m'inscris. Elles m'avaient dit, réfléchis, c'est le prix d'une paire de chaussures. Et ça m'est déjà arrivé, de pas envoyer le chèque. De me dire, la paire de chaussures, je vais l'avoir. Le concours, il y a moins de chances. Donc, je croise Bertrand qui me dit, je crois qu'il te faut un coach, il te faut de l'aide.
Incroyable.
Et tout d'un
toi,
coup...
Toi, tu voulais juste faire l'école buccinière toute ta vie.
Mais payer
sur le sol
et
rouler
au
coup,
moindre effort, tu voulais aller, toi.
Sauf que là, ça a commencé à traîner. Et je commençais à voir les gens autour de moi qui me disaient, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Alors. Donc, ça commençait un petit peu, je commençais un petit peu à me dire, peut-être qu'il faut vraiment, c'est vrai, un petit peu que je pense à l'avenir, parce que là, c'est très en dilettante. Et je ratais tous les concours que je passais. Et comme j'étais habituée à l'échec, les gens, ils avaient l'air étonnés. Ils me disaient, ça va, pas trop peiné d'avoir raté autant de concours. Moi, j'étais là, oh, bah non.
C'est normal,
c'est
en fait.
C'est comme d'hab. J'ai toujours...
Ça t'apprend les castings par la suite aussi, c'est la même mécanique, quoi.
Oui, voilà. Oui, c'est sûr. Et donc, Bertrand a décidé de me coacher. Parce que moi, je prenais toujours la réplique, celui qui était le plus sympa du cours, mais que des fois, on le voyait plus pendant 2 semaines, puis il répondait plus, il avait perdu son téléphone. J'étais toujours copine avec les gars un peu cassos qu'il faut récupérer, qui ont fait une soirée, on sait plus où ils sont. Et voilà, j'ai croisé Bertrand qui m'a dit on va tout rassembler, tu vas trouver une scène, il va falloir que la scène soit claire, qu'on comprenne ce que ça veut dire du début à la fin. Parce que moi, je prenais des scènes au pif, genre j'adore cette scène, mais des fois, les coupes n'étaient pas bien faites. Et donc, Bertrand a décidé de me coacher pendant, je sais pas.
15 ans.
Toujours.
Moi, je fais des blagues temporelles.
J'ai vu, ouais.
Ouais, donc c'est... Elle tombe bien en plus à chaque fois.
J'étais demi-coaché pendant 2 ans. Et là, je crois que c'est la 3e année où là, c'était full moi en mode genre arrête de voir tes profs et il y a que nous.
Non, mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas amitié? C'était quoi? Pourquoi? Est-ce que tu trouvais quelque chose?
Il y avait une vraie amitié, coup de foudre artistique assez clair, beaucoup de blagues sur la machine à café et des distributeurs.
Tu voyais un
de
potentiel
chocolat.
Gâché quoi? Tu disais putain,
je voyais un
pas.
Truc hyper fort. C'est que j'avais un. En fait, je trouve que Pauline, elle fait partie de ces actrices où juste tu la mets sur scène et tu fais rien. Et ça m'agace un peu parfois, je le dis. Tu la mets sur scène, tu fais rien et c'est fascinant. Alors que t'en as d'autres qui doivent beaucoup travailler. Moi, j'ai l'impression de faire partie de cette catégorie-là. Il faut que je bosse un peu pour dégager quelque chose d'intéressant. Ce qui est une force aussi d'avoir une tête qui raconte rien parce que tu peux jouer des messieurs tout le monde. Mais là, Pauline, il y avait un vrai truc du genre. Enfin, quelle évidence, tu lui fais lire le bottin, tu peux rire. Et effectivement, de voir un manque...
Oui, mais parce qu'elle a du mal à le lire, c'est un peu dégueulasse.
Mais rien quand elle galère à lire un texte, c'est drôle. Enfin, du coup, c'est vrai que c'est décourageant pour tous les gens.
Elle a ce truc.
Il y a le truc, il y a le truc magique, et voilà. Et donc, j'étais face à ça, et je me suis dit, mais c'est un gâchis de fou. En tant que jeune investisseur, j'y crois à l'onf.
Tu voulais t'entraîner comme metteur en scène?
Ouais, bah il y avait la fascination un peu de mettre en scène aussi, d'écrire pour quelqu'un ou du moins d'écrire scéniquement, tu vois, que je voulais pas m'appliquer à moi.
Tu voulais écrire tes blagues, t'avais peur de les jouer toi-même.
Oui,
tu t'es dit ah.
C'est sûr, donc j'ai testé aussi.
Donc
t'avais écrit un peu ou t'as écrit pour elle.
Ah, plus tard, j'ai écrit un spectacle à Pauline qu'on a joué dans un théâtre dans le 17e. Ça s'est hyper mal passé. Le spectacle, ça s'est hyper bien passé. On a eu plein de monde avec la direction. Ça a été le moment où j'ai dit bon bah le théâtre, c'est fini. On est tombé sur des charlatans. Mais je m'entraînais un petit peu.
C'était très rythmé.
Le
théâtre, c'est fini. Fini, là. Pain.
Et donc, voilà, je me suis un peu entraîné sur Pauline et finalement, elle a pu, après, elle est rentrée au conservatoire.
Mais alors, attends, ce qui est fou, c'est conservatoire, machin, mais comment on
conservatoire
passe...
du 8e, comment c'est pas ce qu'a fait Jonathan. Jonathan Cohen, c'était pas le 8e?
Je crois qu'il a fait le conservatoire national.
Oui, nous, c'est après... C'est 8e et après national.
Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça.
On avait des photos de Jonathan Cohen dans les...
Dans le national ou...
Dans le national, il jouait de Tchekhov.
Ah oui, c'est drôle.
Jeune, comme ça, tout jeune.
Ouais.
Mais alors, on passe, ça fait conservatoire du 8e, conservatoire national et
je
m'habite.
Fais une autre école.
On rentre au français. Comment ça se passe? J'ai pas dit un gros mot, hein, j'ai juste parlé d'un sketch.
Vous pensiez que j'allais vous parler d'un placement financier ou d'une assurance? Eh ben non, je parle de ma bite. Ouais. Ma bite.
Qui a été un hit,
ouais.
Yes Vous Aime, du collectif Yes Vous Aime. Et après, tu rentres au français ce même mois, d'ailleurs, je crois.
Oui, c'est possible, parce que j'ai fini le conservatoire. Après, pendant un an et demi, j'étais un peu en latence. Nous, on faisait des sketchs pour France 4.
Ça veut
4.
Dire chômage, latence, c'est ça? Non,
non, ça veut dire que c'était, je travaillais, mais c'était genre, hop, tu travailles le lundi. Après, tu retravailles peut-être pas le lundi d'après. C'était l'intermittence très floue.
Très intermittent.
Ouais, voilà. Disons que je faisais des trucs pour France 4, je faisais un peu de théâtre et je cherchais beaucoup figuration. Je passais ma journée Pôle emploi, figuration, faire son intermittence. Ouais. Et puis, on est en train de faire ce spectacle.
C'est bizarre parce que toi, t'as un clavier, les touches, c'est des mots entiers. Vraiment, c'est Pôle emploi, format.
Non, en plus,
elle a pris des cours de dactylo.
Ça n'a pas fait ça.
Elle tape plus vite que tout le monde autour de cette table.
Allez, c'est parti. Ça s'appelle un bon concours.
Allez, c'est parti. Mais elle fait plein de fautes. Donc, ça sert à rien.
Non.
Si, pour elle-même.
Oui, pour moi-même. Ou pour envoyer des mails très vite.
Moi, je m'en fous. Moi, je connais trop de gens. Ils sont trop marrants de ouf. Et ils font une faute à chaque ligne.
Ouais, c'est même plus un truc qui rentre en compte, ligne de compte maintenant, les fautes.
C'est un truc de snob.
Non, mais c'est un délire. Enfin, pardon, je pense que c'est pas pour t'enfoncer derrière, mais tu le défends. C'est quand même. C'est un délire parfois, les textes de Pauline. C'est hyper drôle, les fautes qu'elle fait.
On les voit pas.
Un esprit se demande comment est-ce que t'as pu penser. Que on pouvait écrire ce mot.
C'est dû à quoi ça? C'est une interprétation de la réalité qui est différente. C'est quoi?
C'est que des fois aussi j'écris le même mot différemment, comme je sais plus trop comment il s'écrit. Bah, à un moment je vais mettre er, à un moment je vais mettre ee. Je vais un petit peu. Et puis après, ce qui est pratique, c'est quand c'est à l'écrit avec un stylo, je fais un peu un truc, tu sais, on comprend pas trop si c'est bruit,
comme dans une dictée. Quoi.
Ouais, on sait pas trop si c'est un y
genre,
ou un i.
Où sont tes clés? T'es apostrophe est.
Comme un médecin.
Tu te rappelles du e plat? Quand c'est plus aigu ou grave,
oui,
tu peux faire
un trait dessus.
Il verra ce qu'il voudra voir.
Et tu rentres au français. C'est quand même le Graal, tu passes de Bon, les institutions, visiblement, c'est pas pour, enfin, c'est pas du tout compatible avec qui tu es, et tu rentres sur l'institution du verbe français, c'est-à-dire, enfin, la comédie française, là où les grands textes universels sont joués dans le monde entier. Et...
Bah, au début, c'est vrai que ça m'a fait flipper.
C'est un parcours assez étonnant. Je trouve ça assez beau, en fait. La conclusion, c'est l'introduction d'ailleurs, c'est plus l'introduction de ta vie qui commence. Je trouve ça fou.
Mais c'est vrai que quand ils m'ont dit, parce que je voyais là-bas des gens qui étaient chevaliers des lettres, je sais pas quoi, je me disais, oh putain. Puis on m'a dit, les gens qui sont là-bas, je sais pas quoi, on représente la langue française. Je me suis dit, oh merde. Au début, je me suis dit, mais c'est. Je vais être une imposture dans cet endroit parce qu'ils vont découvrir que. Et en fait, je sais pas. En fait, il y a des gens tellement différents. Mais déjà au conservatoire, quand je suis arrivée, je me suis dit, je vais être une imposture. Quand je suis rentrée au conservatoire national, je me suis dit. Déjà, la première fois que j'ai croisé quelqu'un, il m'a dit « j'ai envie de bouffer du plateau, j'ai envie de bosser à fond ». Et moi, j'étais paniquée, genre « oh là là, mais moi, je mets 1000 ans à prendre un texte ». Le fait d'aller sur scène, comme j'avais fait l'école Buissonnière, enfin, dans mes écoles, le fait de lever la main pour aller sur scène, pour moi, je suis en transpiration, quoi. C'est pas « j'arrive en cours, je lève la main, j'y vais ». Au moment où j'ai levé la main, ça fait déjà une demi-heure que je suis comme ça, en me disant « putain, faut que j'aille sur la scène, alors faut que je me lève ». Donc, tout ça était… Bref, je me suis perdue dans ce que je voulais dire.
Tu avais un syndrome de l'imposteur dès le départ. Et donc, en arrivant à la Comédie française, là, carrément, il y avait des chevaliers des lettres, je te remets dedans.
Ouais, voilà. Du coup, déjà,
chevaliers
en rentrant au conservatoire,
c'est juste des facteurs.
Ça m'a fait.
On les appelle comme ça, voilà. Les facteurs, c'est par respect.
C'est un joli mot.
Technicien de surface et chevalier des lettres, maintenant.
Mais du coup, donc, déjà au conservatoire, j'avais un peu passé ça où je m'étais rendu compte qu'une fois au conservatoire, il y avait tout. Il y avait des grands intellos et il y avait des gens
des confinis,
un peu plus... Des quoi ?
Des gros cons aussi.
Voilà, des gros cons.
Moi, je me moque que des gens que j'aime bien. Hein. C'était une blague. Hein. Ouais. Ça, je me moque pas trop de Martin.
Oh, oh et voilà.
Sauf que comme là, c'était une moquerie, ça veut dire que j'aime bien.
Oh, c'est une blague.
C'est trop compliqué, les gars.
Avec une pause,
c'est
comme
technicien.
Les sitcoms.
C'est fort, ça.
Monde sont tristes.
Et aujourd'hui, ça se passe bien. Et quand on te voit à l'image, bah, on a aucun, on se dit pas, oui, elle est dyslexique ou dyscalculiste que je ne connaissais pas jusqu'à il y a 22 minutes. Mais
c'était il y a 24, je crois que tu l'es.
Oh, je suis. Non, c'est vrai. Et pareil, tu as gauche et à droite, ça va
Oula, non.
Non, c'est pas. D'accord, ok.
Non, je fais les cours de conduite et ils me disent à droite.
Mais à cours ou à jardin.
Il y a un petit temps de.
Voilà. Tourner à cours.
Avec cours jardin. Mais disons que je suis arrivée à la Comédie française, bizarrement, j'étais super heureuse qu'on me propose de rentrer. J'étais tellement choquée que je suis arrivée, je pleurais tous les jours. J'étais là, c'est pas possible, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et je pleurais.
Parce que c'était dur ou parce que t'étais émue d'y être ?
Je crois que parce que je me disais, oh là 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 là, mais qu'est-ce que je fais là ? Et puis je voyais des gens qui me disaient, bonjour Pauline. Et je me disais, oh putain, je sais pas.
Les bons acteurs,
bonjour Pauline, je suis un comédien du français.
Bienvenue.
Ah,
tu t'avais l'air
chérie.
Tellement compliqué.
Vous avez les voix de t'entends les doublages.
Ouais.
C'est ça, je lui dis, oui, c'est moi ma chérie, je suis
les
ton grand-père.
Je suis Bruce Willis.
Ah, c'est toi, d'accord.
Quelqu'un m'a dit, tu veux que je te raconte toute l'histoire qui a été là depuis des années, tout ce qui s'est passé ici ? J'ai dit non.
Ça va aller, merci.
Ça va aller, je vais me faire ma vie ici et après je me renseignerai sur tout ce qui s'est passé depuis des années. Mais si on met tout ici, machin, à jouer, machin, je vais arriver sur scène et je vais me dire, Pauline, bonjour. Donc voilà, mais plus j'y suis... En fait, maintenant tout le monde sait là-bas que je suis dyslexique. J'ai dû le dire assez vite, parce qu'on au début, on m'a mis sur plein de lectures. À un moment, j'ai dit, pardon, je ne vais pas pouvoir faire ces lectures de poésie avec des mots, enfin, que des trucs qui n'ont pas de sens, donc en plus, tu peux te raccrocher à rien. Genre le sable flottant, flotter le sable. Et du coup, moi, je m'embrouillais, donc j'ai dû leur dire assez vite.
Juste, j'aimerais comprendre, parce que c'est quelque chose, j'arrive pas à lire non plus, mais je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là, mais les lettres, elles bougent ?
Je crois qu'elles bougent.
Est-ce que tu vois ?
Oui, je crois qu'elle danse un peu.
Mais il me faut une règle pour lire.
Il me semble qu'il y a un truc sur le fait que, en gros, c'est une façon de déchiffrer qui est un peu différente de la manière dont on va déchiffrer nous qui ne sommes pas dyslexiques. Et en gros, le fait que le B, le D, le P, le Q, ce soit exactement la même chose, mais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ça, par exemple, ça rend ouf.
Ça crée une sorte de mini-angoisse.
Que
du
tout
coup,
soit
ça
sur la même ligne.
L'incertitude, en tout cas.
Que tout soit sur la même ligne. En fait, c'est juste que. Il y a des polices de caractère pour les dyslexiques. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de lire, mais en fait, il y a plein de dyslexiques qui disent « Ah bah voilà, dans cette police, tout va bien. » Parce qu'ils font un B un peu penché, un S un peu différent, un F qui ressemble
pas
au... J'ai
vraiment vu une police. Quand tu as dit une police, je pensais vraiment des keufs.
Police de la dyslexie.
Lisez-moi.
Allez, on va leur mettre les nomades. Et du coup, je crois que c'est, de ce que j'ai compris, ce que ça m'intéressait, ce que j'en connais deux, trois, ou quatre, cinq, je sais plus, moi je suis dyscalculique. Mais le, du coup, le, c'est ça en fait. C'est que c'est une façon différente de déchiffrer, mais c'est, je sais pas comment, neurologique, je sais pas comment on dit. C'est, ouais, pas c'est ça, psychologique.
Il y a un truc qui, le faisceau, il passe mal, quoi.
Ouais, et du coup, moi je confonds beaucoup les trucs. Si on me donne rendez-vous quelque part, je sais pas, je vais aller à un autre endroit qui ressemble. Ouais. On me dit Voltaire, je vais aller à un autre truc qui finit en R, mais je serais pas du tout au bon endroit. On me dit, mais non, mais Pauline, t'es à trois quarts d'heure du rendez-vous, c'est pas du tout là. Donc souvent, je me retrouve quand même dans des galères où je suis partie au mauvais truc. Que j'ai... Il y a quand même dans la vie de tous les jours des petites galères.
Eh bien, c'est quand même un beau parcours, donc bravo.
Ouais, c'était un peu... T'as dit, bravo.
Bah ouais, non, mais c'est beau. Moi, je trouve ça un beau parcours. Je trouve ça assez... enfin, je sais pas, je trouve ça assez... Je trouve ça assez.
Assez bravo. Merci.
Martin, Martin, c'est quoi, toi, ton parcours?
Alors moi, il n'y a pas de CE1 bleu, il n'y a pas de...
Non, c'est le CM2 bleu, on redouble
CM2 CE1. CM2 bleu, pardon. Moi, il y a, quand je suis ado, l'envie de faire du théâtre. Donc, je dis à ma mère, j'aimerais bien faire du théâtre. Elle me dit, d'accord, t'arrêtes le saxophone. Je dis, d'accord, j'arrête le saxophone.
Le saxophone, ouais.
J'aurais dû commencer par là.
Et je vais au cours Simon, avec Christine Jiwa, ouais, que tu connais.
Je connais très bien Christine.
Donc, je fais trois
ans. La première metteuse en scène.
Ouais, c'est ça.
En scène, hein. À l'époque, elle était metteuse en scène même, parce que c'était il y a longtemps.
Oui,
maintenant, elle est metteuse en scène. Ça, ça fait plaisir.
Et donc, trois ans de cours au collège, vachement cool, parce que tu... Bon, en fait, tu t'amuses. C'est que tu n'apprends pas la technique du théâtre. Tu es juste là avec des, même pas des ados, des enfants.
Mercredi après-midi.
Ouais, c'est ça. C'est mercredi, c'est 2 heures, machin, etc. Donc, bref, donc je fais ça pendant 3 ans. Puis, je passe mon bac. Et après mon bac, je fais 1 an de fac à Paris 3, licence de cinéma. Parce que mon père me dit, tu veux être comédien, c'est bien, mais il va falloir que tu fasses tes projets. Il va falloir que tu écrives. Il va falloir que tu...
Ce qui est plutôt
intelligent. Il me dit, il faut initier tes propres projets.
Il t'a mis sur la bonne voie.
Ouais, il m'a dit, il faut initier tes projets, sinon...
Putain, il a vraiment raison, pour le coup.
Bah grave.
Il n'a pas dit, passe des castings.
Non, non.
Attends le désir des gens.
Pas du tout.
C'est toi le désir. Mets
ton téléphone en...
Ça, c'était un... C'est vrai que
fais une page Facebook. Lâche tes cheveux.
Couplé, déjà. Non, mais c'était un super conseil. Au début, je me disais, c'est un con. Et en fait, il avait raison. Donc, fac de ciné qui ne m'a pas du tout plu.
Fac de ciné.
Fac de ciné.
Ça, c'est
exactement. Fac de ciné, donc, chiant. Et après la fac, je dis à mon père, c'est bon, là, j'ai fait 3 mois à la fac de ciné, je crois que j'ai compris. Je vais acheter une caméra. Puis il me dit, non, tu n'as rien compris du tout. Tu vas faire une école de cinéma. Donc, je fais l'ESRA. Et à l'ESRA, je commence à me dire qu'en fait...
L'ESRA, c'est une école où
Tu payes
un accès à une école pour avoir des cours de technique et des cours de mise en relation avec d'autres gens aussi.
Exactement. Et c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'être dans un univers où tu vois des films, où tu rencontres des gens qui ont la même passion que toi.
Tu peux rencontrer un binôme là.
Exactement. Moi, j'ai rencontré Enya Barou, avec qui j'écris et je réalise parfois. Donc, je fais cette école. Et en fait, pendant ce truc-là, je comprends qu'en fait, ce qui me plaît au-delà de jouer, c'est effectivement d'écrire, de mettre en scène, de réaliser. En tout cas, j'ai envie d'essayer, quoi. Et donc, ce truc-là. Et en fait, en parallèle, je veux monter une pièce de théâtre qui s'appelle « Pour ceux qui restent » de Pascal Elbé. Donc, je veux reprendre cette pièce. Et on me présente donc des comédiens. J'ai une copine, elle me dit « Si tu veux, on peut la monter ensemble. » Et je te présente des Camille Locarte, que je crois que tu connais.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc des cours Simon. Elle me dit, je vais te présenter des comédiens qui pourraient jouer dans...
Bref, d'ailleurs.
Elle est dans Bref. Camille, ouais.
Exactement. Elle vend du saucisson, je crois.
Elle vend du saucisson. Non, ouais. Toujours des micro-rôles. Toujours beaucoup de micro-rôles.
Bref, j'étais au supermarché, une femme m'a proposé du saucisson. J'ai dit non. Elle m'a dit...
C'est gratuit.
J'ai dit...
Oui.
Elle m'a demandé...
C'est bon.
J'ai répondu...
Oui.
Elle m'a dit...
Vous voulez en acheter.
J'ai dit...
Non.
Elle avait l'air déçue. Je me suis senti coupable, j'en ai acheté. 3. Je suis comme ça, je sais pas dire non.
Et donc, elle me présente des gens pour jouer dans cette pièce, dont Jordi Le Bolloc. Et donc, on monte cette pièce qui fait un peu son parcours au théâtre. On a fait Avignon, au Théâtre des Béliers, etc.
Qu'est-ce que c'est faire Avignon quand on fait une
Alors, faire
pièce
Avignon. Alors, parce c'est...
J'aimerais
non,
juste,
alors,
parce
on a
c'est...
une chance.
Ah oui,
on a une chance. On n'a pas eu l'Avignon camping de l'enfer.
Dès ton premier Avignon, t'étais au
Mais Béliers, j'ai une chance. Tranquille. Mais j'ai une chance incroyable. C'est que moi, donc, le Théâtre des Béliers, qui est un théâtre assez réputé...
C'est un des meilleurs théâtres
à Avignon.
Plus classe.
Exactement.
Avignon, c'est un festival. J'explique un peu, c'est un festival. Il y a à peu près 800, il y a 1000 spectacles.
Plus de 1000, ouais.
Il y a 1000 spectacles la première semaine. Il y en a 900 la deuxième. Il y en a plus de 400 au bout de 3 semaines. Parce qu'il y a plein de spectacles qui ont arrêté parce qu'ils ne marchent pas. Donc, c'est
exactement
une sorte de pari. En fait, tu vas à Avignon, tu dépenses 15-30 000 euros pour lancer un spectacle en espérant vendre des dates dans toute la province. Donc tu parades, tu dois avec toute l'équipe, tu dois tracter, tu dois faire en sorte de dire genre venez voir mon spectacle, ça va être chambé et tout. Les gens sont là, ah bon, mais j'en ai déjà vu 800, j'en ai d'autres à voir.
Mais c'est exactement ça.
Pourquoi j'irai voir le tien? Tu joues souvent dans des salles vides, c'est déprimant, t'es fatigué toute la journée, tu dors pas. C'est compliqué.
Ça donne envie.
Ça donne bien envie.
Ça peut être un cauchemar.
C'est super dur.
Pour savoir si tu fais ce métier, Avignon, c'est pas la fête.
Mais la chance que j'avais,
c'est pas la fête.
La chance que j'avais, c'est qu'en fait, dès 18 ans, je rencontre Arthur Junio, qui est un des patrons des Béliers.
Ouais.
Et en fait, je suis stagiaire chez eux. Donc, je fais tout. Je fais tous les trucs chiants. Je fais l'accueil billet.
Long, allongé.
Voilà, exactement. Je nettoie les chiottes parce que t'as beaucoup de gens. Enfin, bref, je fais tous les trucs relous. Mais du coup, je crée une vraie amitié avec ces gars-là des Béliers.
Excuse-moi, mais tu nettoies vraiment bien les chiottes.
Oui, donc, t'es vachement bien. C'est
mon ami.
Viens mettre en scène.
Non, mais tu viens d'écrire avec cette urine.
Ma première année à Avignon, 2008, pardon, donc j'ai 18 piges.
Donc, c'est-à-dire que t'as fait Avignon sans y jouer?
Non, d'abord, exactement. Au début, je suis stagiaire vraiment.
À Avignon, mais t'es juste là pour.
Oui, je suis là pour faire les trucs chers.
Pour apprendre, faire machin.
Ouais, pour être stagiaire, quoi.
Ton daron va à Avignon. Vas-y, tu vois. C'est ton
daron. Mais c'était ça, exactement.
Va à Avignon,
mon père, il me disait, vas-y, tu vas voir. Mais c'était exactement ça. Tu vas voir, ça va te former et tout. Première année, j'arrive à Avignon, donc je rencontre les gens du théâtre des Béliers, les patrons, et je rencontre le directeur technique, qui est un mec qui avait 55 ans. Qui était un ancien militaire et qui me regarde comme ça, il me sert à rien, il me dit c'est toi le stagiaire? Il me dit tu t'y connais en fosse sceptique? Je fais je sais pas, faut voir.
J'ai YouTube quoi.
Je peux me démerder, mais tu sais, je veux bien faire. Il me dit demain rendez-vous 9h au théâtre. Et la fosse sceptique était bouchée, donc ma première mission au théâtre des Béliers, c'était de déboucher la fosse sceptique.
Parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment plein de béliers qui chient et tout.
Exactement, donc c'est
relou. Des vrais béliers, c'est tenu
par
des
béliers. Pour vous dire que parfois c'était un peu relou, mais c'était
super. Toutes les personnes sont des béliers dans cette histoire.
Exactement, oui, c'est ça.
On croit que c'est non.
Avec des casquettes parfois, mais ça reste des animaux.
Ça yèche énormément.
Et partout, donc c'est super relou. Donc je fais bref, je fais 4 ans là-bas.
Tu fais bref? Ah bah ouais.
On en parlera après.
Donc on fait Avignon
4 ans en stage
chaque été. Et après on joue donc cette pièce de Pascal Elbé au Bélier. Donc dans des conditions assez cool au Bélier, bien encadré, dans un théâtre où les gens viennent naturellement. Donc c'était un Avignon difficile parce que c'est toujours crevant de faire Avignon, mais franchement, dans de super conditions.
Il y a la clim déjà.
Déjà, il y a la clim, les gens sont sympas, t'as des
parce
affiches.
Parce que des fois, tu joues, t'as pas la clim. C'est ça qu'il faut dire aussi.
Mais de moins en moins quand même. Je crois que dans les théâtres à Avignon.
Dans les endroits qui louent, des fois, genre, ah, c'est loué ça? À la base, c'était. C'était un garde-manger.
Non, mais vous mettez là sur une caisse, ça fait une scène. Mais maintenant, je crois que ça va. Il y a pas mal de clim. Donc, bref, on fait cet Avignon très cool pendant 2 ans. Et en parallèle.
Ça dure un mois, c'est pas pendant 2 ans, ça.
Non, mais je veux dire sur 2 saisons, pardon, même effectivement.
Oh là là, vous êtes Michel Tatillon.
Ah ouais,
vous êtes Monsieur Tatillon dans les Monsieur les petits livrets. Ouais, regardez, si vous regardez le petit livret Monsieur Tatillon, c'est un peu Navo.
C'est vous de ouf.
Il est Tatillon.
Et on fait Avignon, et avec Jordi que je rencontre pour la pièce, il me dit putain, j'ai un pote avec qui je bossais sur France 4 qui va faire un truc sur Canal. Je dis, ah ouais, il me dit, ouais, il s'appelle Kian et tout, machin. Je dis, ah ouais, machin, ok.
Ah, comme Kian.
Ouais, c'est ça qui est assez dingue, ouais. Mais en plus, il se ressemblait.
Il y en a un autre de ouf.
Et donc, en fait, il me montre, avant que Bref commence, il me montre la bande-annonce que vous avez fait avec Denisot.
Ouais.
Il me dit, tu vas voir, ça va être super, etc. Donc, en fait, dès le début, avant même que ça sorte, on sait que. Enfin, on est assez au fait de ce truc-là, quoi. Et on mate les premiers épisodes, et tout de suite, on se marre, on se dit, putain, c'est cool, etc. Et vraiment, au bout d'une semaine de diff, un soir un peu fatigué, un peu bourré, on se dit putain.
La fatigue. La fatigue à 22 ans, c'est quoi la fatigue à
22 ans?
Comment être fatigué à 22 ans?
C'est 10 pétards, 10 pétards, aussi. On va pas se mentir. Et on se dit putain, ça serait génial de faire une parodie de ce truc-là. On se dit ah ouais, grave, etc. Et on se retrouve 2 jours après. On n'avait jamais vraiment écrit de trucs ensemble avec Jordi. Et on s'écrit une parodie. En faisant bref, j'ai voulu parodier bref. Donc un truc de mise en abîme autour de bref, etc.
Martin m'a rappelé. À lui aussi, je lui ai parlé du projet et il était plus emballé que le mec de Canal. Il m'a dit qu'il venait au plus vite.
Ah bah déjà ?
Avec des potes qui s'y connaissent en cinéma et un chien qui lui aussi s'y connaît en cinéma.
Et vraiment, on l'écrit mais simplement, sans se prendre la tête, sans le truc de ouais, tu penses que là... Non, vraiment, on fait ce qui nous amuse. On le tourne avec des potes, on le monte avec un pote... Et on le diffuse...
Avec un ennemi.
Avec un ami.
Parce qu'on avait marre tout le temps avec des gens, avec des potes, on fait jamais rien avec nos ennemis.
On le fout sur YouTube, mais on n'avait même pas de chaîne YouTube. C'est sur la vidéo, elle est encore sur ma pauvre chaîne. Non, c'était sur, ouais, c'était sur la mienne, mais toute pourrie. Enfin, je... Il n'y avait pas ce truc de. Il n'y a pas de abonne-toi à la fin de la vidéo, tu vois.
On ouais, bien pas sûr, il n'y avait pas les codes.
Ça s'appelle comment ta chaîne, Martin Darondo?
Ça s'appelle Martin Darondo, ouais, vraiment. Et
Martin 8886, c'était
ouais,
les.
Exactement, beau gosse du 75.
J'aimais bien la 86 à l'époque.
Donc on s'est dit, bah, c'est pas mal. Et on balance ce truc-là. Et en fait, on a la chance de prendre la vague de bref et d'être dans les premières parodies. Et le truc fait 1 million de vues. À l'époque, 1 million de vues, il y a 10 ans, enfin, c'était, enfin, en tout cas pour nous, c'était énorme.
Oui, c'était
ça dingue,
c'est,
quoi.
Ouais, c'est beaucoup.
Donc, on est super contents. On se la pète auprès de nos potes, évidemment. Et Canal+, nous a, enfin, Christelle Graillot, donc, qui était à l'époque, qui s'occupait de
du repérage.
Ouais, repérage talent chez Canal, nous appelle et nous dit, mais vous êtes qui? Vous faites quoi?
Parce qu'ils sont trop chers, les deux autres.
Ouais, exactement. Comment on peut s'arranger. Et donc, elle nous dit, bah, venez chez Canal+, on se rencontre. Donc, nous, avec Jordi, on était... Mais... Enfin, vraiment, c'était notre rêve de faire ce métier-là. Et là, c'est, t'as le Real Madrid qui t'appelle, si tu veux, le meilleur truc pour faire des...
Pour nettoyer les chiottes encore.
Pour nettoyer les chiottes. Ouais. Il m'a dit que vous nettoyez vachement bien les chiottes. Ouais, c'est moi, j'arrive.
Bélier,
ouais.
Il m'a dit que t'étais
bon. J'ai ton CV sous les yeux, dis donc. Et donc, on arrive... Enfin, en fait, on prépare le rendez-vous, c'est qu'on se dit, mais attends, on va être devant Christelle Graillot, on va lui dire quoi? On joue au théâtre une pièce de Pascal Elbé. Je pense qu'elle s'en fout. Et au-delà de ça, nous, on n'avait rien de prévu. On faisait pas de two-man show. On n'avait pas du tout prévu de se lier comme ça avec Jordi. Ouais, juste, on s'était marré sur une connerie, une vidéo. On s'était même pas dit, on va en faire d'autres. Enfin, tu vois, c'était... Et donc, on se dit, il faut qu'on tourne un truc pour Ariel. Pour Christelle. Et donc, on tourne une vidéo qui s'appelle « Dans le bureau à Christelle ». Où c'est nous deux en train de raconter des conneries de comment pourrait se passer le rendez-vous. Donc on se dit, c'est cool de tourner cette vidéo parce que, en fait, on n'a rien à lui vendre. C'est juste pour la faire marrer, c'est que de la private joke. Et bah, si ça la fait marrer, elle va se dire qu'on est sympa. On fait ce rendez-vous, on lui montre la vidéo, elle se marre, elle dit, ah, c'est cool, il faut que je vous présente Ariel Saraco, qui est donc la patronne de la création originale chez Canal. Ok, trop bien. Et Christelle dit, c'était super vos vidéos, ça serait bien d'en avoir une autre pour Ariel. On se dit, putain, faut qu'on réfléchisse à un autre truc.
Est-ce que j'en galère?
C'est chiant, mais c'est bon, on a un hit.
Born to be alive, voilà, balance tout.
Vous le repassez. Et donc, on rencontre Ariel un mois après. Et en fait, en un mois, on avait réfléchi à trois.
Parce qu'elle vous a dit bonjour les garçons.
Ouais, bien sûr. Coucou les garçons, asseyez-vous là. Elle avait fumé encore des clubs dans son bureau à l'époque. Et on avait tourné trois pilotes. De programmes courts. Trois idées, bon, un peu à la va-vite, hein, je ne vais pas vous mentir. Et on tourne ce truc-là, on montre Ariel, d'ailleurs, il y avait un chantier à côté de Canal, et au moment où elle met play sur la vidéo, chantier marteau-piqûre, da-da-da-da-da-da. Donc elle n'entend rien des pilotes, l'enfer, donc on l'explique les blagues pendant.
C'était
mais c'était horrible. Mais Ariel nous aime bien, elle nous dit, bah tiens, allez voir Laurent Bon, qui est le patron de Bengoumi, ouais, de Quotidien, donc du petit journal à l'époque. Peut-être qu'il y a un truc à faire. On se dit, ok, tu sais, tu passes les mondes, quoi. Vraiment, t'es dans le jeu vidéo, tu dis, hey, c'est reparti. Ça serait bien de faire une vidéo pour Laurent Bon. Ah, ok, ça marche, pas de problème. Donc, on a rendez-vous.
En fait, depuis le début, ils sont là, ils s'envoient juste des mails. Il y en a deux, ils sont à fond.
C'est ça, deux.
Ils vont te faire une vidéo personnalisée.
Mon frère, il se marie. Fais donc une vidéo. On a fait ça pendant 7 ans.
Exactement. Donc, on va voir Laurent Bon et on lui fait une vidéo. Et Laurent Bon, il nous dit, bah ouais, vous êtes très sympathique, mais moi, là, j'ai Eric et Quentin qui viennent de commencer. Bah, je crois que j'ai besoin de personne. On dit, ouais, ok, bah, salut.
Mais donc, allez faire une vidéo à Eric et Quentin, quand même.
Mais allez voir, ça peut vous amuser. Donc, ce rendez-vous ne donne rien du tout avec Laurent Bon. Et on continue à être au téléphone avec Christelle, et Christelle nous dit, vous inquiétez pas, je pense à vous, un jour ou l'autre, on trouvera un truc à faire. Et les mois passent, et on se dit, bon, bah, non, en fait, ça, je pense que c'est dead. Et ça, c'est... février 2012, et elle nous rappelle en décembre 2012, donc pratiquement donc, la saison d'après, elle nous dit « On va monter une cellule d'auteur chez Canal+, dirigée par Bertrand Delaire. Est-ce que ça vous intéresse ?» Nous, on n'était pas auteurs, enfin, on avait écrit trois blagues, quoi, mais on avait dit « Ouais, ouais, grave, carrément !» Donc, ça commençait en janvier 2013, on avait dit « Bah, chaud !» C'était un mois de contrat, et en fait, on a fait un mois, puis encore un mois, puis encore un mois, puis encore un mois, puis on est resté... Des années avec les 3 mois, et après, salut les gars. Non, et puis voilà, on a commencé à faire des conneries. Canal+ nous a ouvert une chaîne YouTube qui s'appelait Jordi Martin. On a une idée de programme court qui s'appelait les mashups. On a fait les mashups à l'antenne au Grand Journal, et puis le JT Pressé, et puis voilà, on a fait 8
ans. Vous êtes formé, quoi. Vous êtes formé.
Ouais, on s'est vraiment formé.
C'est bien formé de bureau d'auteur. Je trouve que c'était. Mais je sais pas si cool. Ça existe encore ou pas chez Canal.
Non, mais... ça n'existe plus malheureusement, mais.
Ça, c'est une force parce que tu es une sorte de vivier de gens, et c'est après, c'est peut-être comme ça ensuite que vous êtes connecté du coup ou pas.
Ouais, tu veux dire avec Bertrand.
Ouais, justement.
Ouais, comment c'est. Bah,
plus ou moins en fait.
C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé en fait.
Comme c'est dans les parages de Canal.
T'as coaché. On se rend compte, le mec, c'est un grand coach. À la base, il voulait vendre un programme de coaching.
Dans les trucs de développement personnel. Devenez la
meilleure. Tu montes sur scène.
Je fais brute, mais moi, c'est un produit d'appel. Devenez la meilleure
version de vous-même.
Exactement. Non, mais ce qui était cool, ce truc d'auteur, c'est qu'en fait, on n'avait rien à faire.
Ouais.
On était là dans un couloir.
Par contre, t'as croisé Ambroise là-bas.
Et Ambroise... ouais, Ambroise Carminati.
On salue.
Alors, salut, Rémi, si tu nous entends.
Parce qu'il est metteur en scène d'un truc que j'ai co-écrit.
Exactement, de
enfin,
Ambroise et
j'ai aidé à écrire.
Exactement. Ouais, je l'ai rencontré Ambroise parce que.
C'est un entre-soi.
On avait essayé de remonter la grosse émission sur Comédie. Et on avait rencontré Ambroise à ce moment-là. Et puis on est devenus potes. Et puis voilà. Et après, Ambroise a fait partie de la cellule d'auteur. Et c'était une cellule au début, nous, quand on est arrivé. Il venait de la créer, cette cellule. Donc il n'y avait vraiment rien à faire. On avait un bureau qui était à côté du bureau.
Tous les jours, vous veniez ?
Ouais. C'était du lundi au jeudi, mais pour faire les mecs, on venait aussi de vendredi pour dire...
Vous étiez motivés.
Ouais, regardez, on a envie. Et c'était aimé pour nous, c'était génial. Déjà, on était payés. On avait un bureau à Canal avec un badge, donc...
La classe.
À 23 ans, tu sortais un peu ton badge et tout en soirée pour dire que t'étais à Canal.
C'est tombé.
Oh, excuse-moi, c'est pas ma carte Navigo, c'est ma carte
J'ai
Canal.
Mis mon badge entre tes seins.
je vais le récupérer. Et donc, on était trop contents. Et donc, on proposait des idées qui étaient nulles, mais c'est pas grave, on s'amusait à proposer des choses, quoi.
C'est un peu la clé aussi, à un moment donné, tu passes.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est un peu en mode industriel quand t'écris justement. Et quand t'écris en industriel, quand c'est industriel, ça veut dire que tu dois faire beaucoup. Tu dois écrire, comme tu disais, Pauline, tout à l'heure, le lundi, tu dois écrire pour mercredi. Et en fait, ça te libère. Je trouve qu'il y a même des gens, le Graal, quoi. Alain Chabat, il a beaucoup écrit comme ça. Tu vois, les Inconnus, ils ont beaucoup écrit comme ça. Jamel,
obligé de faire.
Tu dois livrer, tu dois livrer, t'es à l'antenne, tu dois livrer, t'as pas le choix. Et en fait, ça te met dans un état de... T'es plus en train de te dire, c'est le truc du mois, à un moment donné, parce qu'après, on reviendra là-dessus, pardon Bertrand, quand t'écrivais Yes, vous aime, c'était, t'avais le premier pro.
Mais comment ils se sont rencontrés, alors?
Ouais, attends, moi, je sais même pas comment vous êtes rencontrés.
Mais justement,
en fait.
On y arrive, c'est juste que quand tu dis, t'as un sketch, toi, quand tu dis, je commence YouTube, t'as un sketch, tu mets 8 mois à l'écrire, tu mets 6 mois à le monter, ouais. Et en fait, t'as tout un chemin d'angoisse qui est hyper dur, et du coup, tu livres pas trop.
On a mis un an à sortir certains.
Il y a certains qu'on a mis un an parce qu'effectivement, tant que c'est pas prêt, tu le sors pas. Tandis que quand t'as une date de rendu, même s'il est pas prêt, tu le sors. Voilà. Et du coup, il sort avec tous ses défauts, tous ses ratés, tous les trucs pas bien, mais il existe.
Et t'as l'occasion de te dire, au pire des cas, on fera mieux demain.
Ouais.
Oui.
Donc tu sais que tu pourras te rattraper le lendemain et tu auras forcément des jours moins bien.
Vous êtes rencontrés comment du coup après?
En traînant dans les mêmes bureaux.
Officiellement.
La version officielle.
Non mais je sais. En vrai, on
traînait dans les mêmes bureaux, ouais. Et on a été mis tous les deux sur un programme qui s'appelait Scroll, qui devait être une parodie des réseaux sociaux. Mais du coup, on était tous les deux dépêchés sur ce truc-là. Enfin, j'avais entendu qu'en fait, au sein de Studio Bagel, qui après le départ du fondateur de Studio Bagel, qui s'appelait Lorenzo Benedetti, il y a Lies Butchich qui est arrivé et qui lui a développé un programme qui était une parodie donc, des réseaux sociaux. Il a appelé Martin pour travailler dessus. Et Martin m'a contacté, m'a dit « Ah tiens, ce serait intéressant de mettre à l'intérieur, nous on va faire des parodies de Combini, tout ça, Loopsider, tous ces trucs. » Je me suis dit qu'on pouvait mettre des bouts de broute à l'intérieur, faire un truc un peu hybride. Le projet n'a jamais vu le jour, mais c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble.
Martin est arrivé dans broute.
En tant que storyteller, j'arrête ici, parce que ce que je veux, moi, c'est ensuite que tu racontes ton parcours et hop, on reconnecte à ici, parce que dans le parcours...
Ouais, je Tarantino ou quoi ?
Et alors, c'est un hommage. Bertrand, toi, t'es parisien ?
Mais vite, par contre, parce qu'ils ont
mis
deux
fois plus. Je prends autant de temps ou...
Non, mais c'est intéressant.
Deux fois plus.
C'est moi qui étais invité à la base.
Parce que Bertrand, il parle beaucoup.
Ils sont encombrants.
Tu vois que je vais faire très, très, très court. Moi, à la base...
Je suis à la hauteur de l'intérêt de ce que tu vois.
Moi, non, là-bas, je faisais pas de théâtre. Moi, je savais que j'étais un peu perdu dans un parcours classique avec des attentes parentales assez fortes sur la réussite. Pas tant parentale qu'aussi... j'ai un grand frère qui est brillant. Et du coup, il était très fort pour faire plein de trucs. J'avais un père qui était ingénieur. Il a vraiment refilé ça à mon frère, l'espèce d'intelligence de résoudre très vite des problèmes compliqués. Ça, il savait très bien faire. Moi, beaucoup moins. Mais j'étais un peu plus éparpillé, créatif. Donc, j'ai senti que le milieu scolaire, en général, dès qu'il y avait, je ne sais pas, un poème à réciter ou un exposé à faire en espagnol, j'en profitais pour faire des blagues ou des trucs comme ça. Ce qui m'intéressait, c'est d'être toujours un peu outsider vis-à-vis d'une institution. Et c'est drôle parce que c'est un petit logiciel en moi qui revient souvent, en fait. C'est un peu le syndrome de l'imposteur, mais vu d'un angle peut-être plus valorisant. De se dire, bon, je ne suis pas qu'un imposteur, je vais être un outsider dans un système qui ne me correspond pas. Ça me permet aussi de me protéger un peu. Donc, j'étais
ça
pas...
génère l'indulgence, être outsider. C'est,
quelque
c'est...
part aussi.
L'indulgence, tu n'es pas attendu, donc forcément, tu peux...
Jouvais.
T'as moins de pression.
Mec, chiant. Jouvais, il parle d'acteurs contre, les acteurs pour, les acteurs contre. Mm-hmm. Et je trouve ça très beau quand tu arrives comme acteur pour, le mec qu'on attend, le Gérard Philippe, on dit il va forcément bien jouer. Quand tu rates, c'est compliqué. L'acteur contre, c'est le mec du fond qui est pas dingue. Et puis d'un coup, boum, il explose. Podalydès est très fort pour faire ça sur scène,
c'est vrai.
Je trouve. Je trouve incroyable pour ça. Et
oui, il a dit boum, il explose sur scène. Et j'ai pas fait de blague parce que tu m'as dit qu'elle te mettait mal à l'aise, ces blagues-là.
C'est pas que c'est qu'elle me mette mal à l'aise, c'est que. Elle me met mal à l'aise, clairement.
c'est bien. Suite à ça, milieu scolaire, je me débrouille quand même, en fait. J'ai beaucoup de mal à être moyen, mais je me donne du mal quand même. Et j'ai
tellement
beaucoup...
t'es fort ou tellement t'es pas fort
j'ai... Ça, non, j'ai pas tellement. Je suis pas ouais. fort en cours. Je suis pas
moi,
cadré
j'ai mal à
pour
être
ça.
Moyen, mais c'est parce que je suis
c'est
incroyable.
Fort. Ouais.
Je me bats et pour être assez moyen.
Ok. Ça, c'est beaucoup d'efforts pour être dans la moyenne. Quoi.
En fait, c'est beaucoup d'efforts pour faire un truc que j'ai pas envie de faire. Apprendre un truc qui m'emmerde, ça me demande énormément d'efforts. Ouais. Ça demande autant d'efforts aux gens qui réussissent, mais je dis pas que c'est simple. C'est juste que j'ai pas
ça
cette
te coûte
capacité-là.
Énormément, quoi.
Ça me coûte
ça
énormément.
Parce que ça te passionne pas, ça t'intéresse pas.
Ouais. Très vite, moi, je me passionne pour les ordinateurs et la MAO, la musique assistée par ordinateur. Je passe plus de temps à essayer d'installer des logiciels. C'était l'époque où tu passes plus de temps à essayer d'installer un jeu que de jouer. Le vrai jeu, c'est d'installer le jeu. Ouais. D'aller sur Hasta la Vista,
ouais. Alta Vista.
Box.sk pour
Hasta
la Vista.box.sk pour prendre les cracks. Ça prend, donc, tu prends des week-ends à installer le jeu.
Tu prends des virus aussi dans la gueule. Hein.
Pas mal aussi. Donc, du coup, mais ça me passionne. Et du coup, voilà, je commence à pas. Je décroche pas, mais non, je suis moyen. J'arrive quand même à avoir un bac. Mais après le bac, je...
C'est marrant parce qu'en fait, techniquement, une fois que t'es sur un ordinateur, t'es comme ton frère.
Qui arrive à résoudre des problèmes.
Ouais.
Ouais. Mais qui sont des problèmes que je me donne. Genre, je veux. Quand j'ai la carotte qui est claire.
Intéressant. C'est ton grand frère.
Ouais.
Mm-hmm. Et t'avais l'impression que lui, elle savait résoudre des problèmes et pas toi. Et puis quand on te mettait devant un ordinateur, t'allais sur Hasta la Vista, machin, et tu résolvais les mêmes problèmes que lui.
Mais parce que lui,
le
faisait mieux que moi
dans
encore.
Dans un cadre scolaire.
Lui, le faisait encore. Et lui, le faisait encore mieux que moi. C'est juste que j'ai l'impression que. Mm-hmm. Mon père comme mon frère avait un truc long-termiste. Ma mère, je crois qu'elle a un truc un peu plus court-termiste.
Mon père, il disait souvent, lui, c'est moi. Toi, t'es pas comme moi.
Non, je vous
disais souvent ça.
Il disait tout le temps, tu dormais dans la cave. Est-ce que t'avais une seule couverture pour lit?
Bah oui, t'es comme tout le monde.
C'est
ma chambre au chien, quoi.
Il disait, ah, toi, tu ressembles à ta mère, alors que ton frère, il me ressemble plus. Il disait ça, ton père.
Non, c'est moi qui dis que je pense qu'il peut-être dit, je pense ça, mais il m'a rien dit. Mon père, il m'a toujours dit, t'es super. Mais je l'ai pas entendu.
Mais moi,
j'ai entendu la petite phrase.
J'arrive, j'obtiens mon bac, mais je crois que quand j'envoie mes dossiers, j'avais l'obsession de faire une prépa, alors que je savais que je pense que j'allais pas m'amuser, mais mon frère faisait une prépa. Et j'ai pas envoyé mes dossiers complets, ce qui fait que je me suis retrouvé avec rien. C'est vraiment le mec. Alors j'avais inventé Parcoursup avant que ça existe, quoi. C'est-à-dire que j'avais rien.
C'est un acte manqué, ton envoi.
C'est clairement un acte manqué.
Ouais, il y en a eu pas mal d'autres dans ma vie, des comme ça. Et du coup, c'est ma mère qui va m'inscrire dans une fac de sciences politiques et histoire, une bilicence à Paris 1. Et là, je rentre dans une obsession pour intégrer Sciences Po. Donc en fait, je passe tout mon temps
fou, ça.
À essayer d'intégrer cette école parce qu'elle me fascine, pas dans. Ce qu'elle produit vraiment, c'est-à-dire des élites, des énarques ou des gens qui bossent dans la com ou je sais pas quoi. Non, dans ce qu'elle forme d'outsider. Moi, mes modèles à l'époque, modèles de parcours, hein, indépendamment de ce que je peux penser d'eux, c'est Big BD, c'est Roumanoff, c'est la chanteuse Camille, c'est tous ces gens qui sont passés par cette école parce que j'ai l'impression que tu achètes des points de vie un peu et tu dis tu peux délayer ton choix de vie. Si tu fais Sciences Po, tu peux encore passer. Social.
Est-ce que Sciences Po, si tu l'avais eu, ça aurait été un peu mieux que ce qu'a eu ton frère? Et qu'à Noël, enfin, t'aurais pu dire
Je pouvais pas faire ce que c'est mon frère. Par contre, j'ai eu des rêves où des gens de ma famille se mettaient à faire du théâtre et ça me quand j'ai commencé à faire du théâtre et ça m'angoissait parce que je me disais, c'est ma place, j'ai mis tellement de temps à la trouver que, et je me réveillais où je rêve que mon meilleur ami, mon pote Romain, ouais, qui se mettait à faire du théâtre et ça m'angoissait, qui rentrait tous au conservatoire, tu vois. Ce que ça raconte sur la place.
Ah oui.
Où est-ce qu'on se situe?
Tu te sentais moins toi parce que tout le monde faisait comme
ça. Ouais, je me sentais menacé dans les décisions que j'avais prises où je me dis, en fait, c'est simple ce que j'ai fait de décider de faire du théâtre.
Ah,
tout
le monde le fait. Ton frère, en fait. C'est ton frère.
Ouais, il arrive sans arrêt.
Il arrive, genre, César, le lendemain. Tu fais, putain, mais laisse-moi ça.
César, arrête, mince, il est toujours là. Et donc, ouais, je rentre, voilà, je veux faire Sciences Po, mais j'ai pas tant pour le statut. Je sais pas ce qu'elle représente, cette école. Déjà, travailler le concours de Sciences Po est intéressant. C'est-à-dire que comme je l'ai tout le temps raté, j'ai bossé l'histoire du 20e siècle, genre, 4 ans d'affilée. Je suis un peu calé, ça va, tu vois.
En 1900, il y avait des trucs.
C'est quand l'Anschluss?
L'Anschluss, 38?
78,
pas du tout.
Peut-être. Bah, si, c'est 38.
Si, 38, peut-être. Non?
Je dirais mars 38. J'invente.
Mais comme c'est l'annexion.
La, donc voilà, ouais, je veux faire Sciences Po parce que je me dis qu'après, je pourrais faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le vrai monde. J'ai
mais
encore
c'est
une.
Cette obsession. Enfin, moi, je vois pas Sciences Po, quoi. Ok.
J'imagine que si t'es dans une famille qui accorde beaucoup d'importance au diplôme, Sciences Po, il y a un truc où tu te dis, une fois que je l'ai,
c'est le suprême.
Je peux faire n'importe quoi. Je suis le mec de Sciences Po, mais qui fait ce truc maintenant?
C'est ça.
C'est un peu.
Genre, c'est un pass c'est général ça. De dire, c'est bon, il a fait Sciences Po, il sait ce qu'il fait.
Ouais.
C'est combien de temps Sciences Po?
Lui, c'est 3 ans plus 2 ans de.
Donc c'est 5 ans.
Pour le passé?
Ouais.
Je pense que j'ai mis 3-4 ans parce qu'il y avait bac 0 ensuite.
Non, mais une fois que t'es dans Sciences Po, c'est combien de temps? C'est 2 ans.
Il y a 3 ans d'école et 2 ans de master, je crois.
Donc c'est 5 ans et tu. Donc pendant 5 ans, t'essaies de rentrer pour dans cette formation de 5 ans?
Ouais, pendant 3 ans. 3 ou 4 ans, parce qu'après, à la fin de ma licence de sciences politiques, pas de Sciences Po, mais de sciences politiques que j'obtiens à Paris 1, là, je fais un truc qui est un peu. C'est un peu bateau, mais je l'assume. C'est que je fais un voyage en Inde avec des potes. Et c'est là-bas où j'ai la révélation de
les
je reviens à Paris et je me dis pas encore. C'est quand je reviens à Paris où je me dis non, il y a un vrai truc qui se passe, c'est que je suis...
C'est chiant, hein, quand il t'arrive un truc en Inde
qui arrive
et que tu dis mais je vais jamais pouvoir le dire à personne.
C'est trop
dire,
cliché.
Oh, c'est vraiment un cliché.
C'est pas, il n'y a rien de mystique.
Allez le faire en Belgique, ça sonne un peu original, quoi.
Il y a un truc qui se passe sur le... C'est un pays qui est... Alors, formidable, mais qui est dur en termes de pauvreté. On est arrivé à Chennai et je me souviens que c'était genre le truc qui était un peu choquant. C'est pas la ville qui est conseillée pour découvrir l'Inde au départ. Et encore, j'ai fait que l'Inde du Sud, je crois que le Nord est encore plus terrible, mais c'est vrai que t'es confronté à une pauvreté, une misère, t'es un peu genre... c'est ça qui est suffocant, en fait. Et je reviens en France, et ça, c'est mon côté de droite, c'est que je développe un vrai amour pour mon pays en me disant, putain, on a quand même énormément de chance de bénéficier de ce pays, de l'intermittence, du rapport à la culture, il y a 1000 théâtres par rue dans pas mal de villes, c'est quand même fou, et je me dis...
Surtout
bon,
à Paris, hein, comme...
Surtout à Paris, mais...
Dans toutes les villes de France, il y a des milliers de théâtres.
Mais il y a quand même beaucoup de théâtres au mètre carré, je crois, en France. Ouais. Et je me dis, je n'ai pas le droit de ne pas saisir cette opportunité de faire juste un truc qui me plaît. De toute façon, je sais que je ne sais pas faire autre chose que
ça. Tu faisais pas du théâtre avant?
Non, non, non.
Tu pars en Inde.
C'est ça.
Tu reviens.
Oui.
Mais là, tu dis, putain, c'est le théâtre.
Ouais, c'est ça. Ah, j'ai 22 ans.
En fait, toi, tu commences direct le théâtre en mode pro. Tu ne fais pas comme nous un cours où tu tentes, quoi. Tu ne fais pas le cours amateur.
Pourquoi le théâtre tout d'un coup après l'Inde? C'est quoi le lien?
Parce que...
Il veut pas nous dire.
Parce que t'aurais pu te dire, putain, mais attends, des garages, il y en a tous les mètres carrés. Depuis le début, je vais être garagiste.
Non, parce que... Alors, je savais que je voulais faire un truc artistique. Et le théâtre, c'est peut-être le seul... Acteur, c'est le seul métier que tu peux faire sur le tard. Tu peux pas être guitariste professionnel à 30 ans. Tu commences la guitare. C'est compliqué. Tu vas pas... Donc, ouais. Là, tu peux arriver un peu tard, tu vois. Tu peux faire une François-Xavier de maison.
Ça avait 22 ans.
C'est tard pour certains qui sont nés dedans. Et tu regardes, il y a plein d'acteurs qui ont commencé depuis tout petit.
Ah, t'avais l'impression que 22 ans, c'était tard pour te lancer dans quelque chose, quoi que ce soit dans la vie?
Je pense que ça l'est.
Après, c'est un métier qui demande de l'expérience. Comédien, plus t'as vécu des choses, plus t'as de choses à raconter, à retransmettre derrière. Donc, c'est compatible avec ce que tu dis.
Oui, mais... Et puis, t'as pas besoin d'avoir, je te dis, il n'y a pas de technique pure, en réalité. Tu peux bien faire jouer Johnny Hallyday. Dans L'Homme du Train, c'est le cas. Il est bien, Johnny, il joue bien. Puis après, tu le vois dans d'autres trucs, tu fais wow, c'est compliqué, Johnny. Mais là, le théâtre.
Donc, comme c'est grâce à toi, par exemple. Ça n'a rien à voir avec elle, c'est pas son talent.
je l'utilise aussi beaucoup pour son talent parce qu'elle rend aussi bien mes textes nuls parfois. Mais.
Oh.
C'est très vrai. Oh, elle dit non.
Elle les a pas lus, c'est pour ça.
Je les ai pas compris. Je les ai juste répétés.
Et comme il n'y a pas de technique, tu peux commencer le théâtre un peu tard. Donc, je me dis, je vais aller là-dedans. Et là, naît une nouvelle obsession qui est celle du Conservatoire National. Première année, je me souviens, c'est, je fais du théâtre depuis 3-4 mois. Et là, la période des concours commence. Je passe, pareil, tous les concours de France. Je refais ma tournée des échecs de France en ratant le Théâtre National de Strasbourg, celui de Paris, évidemment, Lyon. Donc, je rate.
Saint-Étienne aussi, peut-être.
J'avais pas fait
Combien de paires de chaussures sont parties dans ces concours
Beaucoup.
Bertrand Huskla.
Beaucoup
de marché pieds nus. Après le dernier concours, c'est arrivé pieds nus.
C'est ça. Ouais. Mais si, en fait, ce qu'il y a. De toute façon, tu joues pieds nus au théâtre. Donc, pour faire de la tragédie.
L'énergie, vous
Et en fait, ce qui se passe, en fait, qui m'achète un an de répit vis-à-vis de mes parents, qui, quand je prends cette décision, me regardent un peu d'un œil, un peu genre, c'est bizarre, en fait, ça vient de nulle part, t'as jamais aimé ça, pourquoi d'un coup tu te passionnes?
Parce que
j'y allais pas. J'y allais pas, je m'en foutais.
Petite merde, ils disaient aussi.
Petite merde, retourne dans ta cave.
On préfère ton frère.
Sans arrêt, sans arrêt.
Regarde-le, lui.
J'ai raté les concours, mais ce qui me sauve quand même, c'est que le conservatoire, je le rate pas tant que ça, j'arrive au dernier tour du conservatoire.
Ce qui est rare quand on le passe la première fois.
Ouais. Enfin,
ça arrive, mais c'est...
Mais c'était bien entraîné. Il avait rodé, il connaissait déjà le truc. Il a rodé en province.
En province, j'ai rodé mon truc et j'arrive devant Paris. Mais je me gaufre au troisième tour. Mais là, mes parents disent « Ah, en fait, t'es reconnu par un petit cénacle de gens dont on ignore le milieu, mais ça a l'air d'être des gens
déjà
compétents. »
Déjà, tes parents, ils disent cénacle. Donc, je comprends pourquoi t'avais une pression, c'est
la première fois de ma vie. Dans les statistiques de ma vie, cénacle apparaîtra ce jour-là.
Moi, ma mère, elle me dit cénacle, et pourtant, elle n'est pas conne, ma mère. Elle dit cénacle, bah, je sais que c'est quelqu'un qui l'a remplacé. Je sais qu'en fait, c'est une intelligence artificielle qu'on a envoyée ou un espion.
Alors, le petit cénacle que mes parents ignorent, qui sont ces gens au jury, mais ils se disent, bon, visiblement, ils ont l'air compétents. Continue en fait, parce que là c'est ce que mes parents ont toujours dit au-delà de ton frère est mieux, c'est fais un truc qui te plaît.
À force,
c'est voilà. Et c'est assez un peu retourné contre eux. Ils m'ont toujours dit fais un truc qui te plaît. J'aurais dit c'est ce qui me plaît vraiment, c'est le théâtre. Fait, ah putain, juridiquement on est niqué.
Premier on l'a dit, fais un truc qui te plaît, ingénieur.
Mais ils m'ont dit bon un an et après on se bac quand même pour trouver un salaire parce que c'est faut vivre. Et ils m'ont donné un an et en fait en ayant le troisième tour ils m'ont dit ok. Ça a l'air de te passionner.
Ça te laissait une année de plus.
Ouais, et puis ils m'ont vu dans un autre état, en fait. Je dormais plus, j'allais tous les matins. C'est un milieu où le théâtre, il n'y a pas beaucoup de mecs. Donc, comme les rôles classiques, il n'y a que des bonhommes. T'es ultra sollicité. C'est ce qui fait partie un petit peu.
C'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de mecs.
Le théâtre,
ouais. Les moi, cours les cours de théâtre, il y a beaucoup plus de filles.
C'est beaucoup plus dur pour les filles. Au concours du conservatoire, il y a, je sais pas, deux fois plus de filles. Je sais pas les stats exactes, mais c'est immensément plus dur pour les filles.
Et au final, c'est vrai qu'il y a plus de rôles pour les mecs.
C'est pour ça qu'elles sont plus fortes.
C'est ça qui est chiant, en fait. C'est que c'est moderne, donc il y a plus de filles, mais on fait des textes anciens, donc il y a que des gars.
C'est ça.
C'est le problème du répertoire.
Vous êtes 16 000 pour jouer. Oh non, mon Dieu. Et sortir vite pendant que l'homme fait sa tirade.
Exactement.
Moi qui voulais me marier avec vous.
Allez, ciao. Va-t'en.
Maintenant, on doit laver notre honneur.
Voilà. Et j'ai profité de ça, le fait que ce soit plus simple pour les mecs. Coup, j'étais toujours sur le bateau. Toutes les filles voulaient avoir des répliques mecs quand il faut jouer Célimène et Rodrigue. Enfin, Célimène et Rodrigue,
et
super. Le crossover est hyper, hyper chouette.
Bonne blague de théâtre, ça.
Enfin, ouais.
Célimène et Rodrigue.
Les gens les mecs devant YouTube sont comme des dingues.
Oui, c'est
drôle. Du coup, j'ai toujours sur le plateau parce que les filles cherchent des mecs pour donner la réplique. Donc, en fait, je crois que je fais 3 ans en un, quelque part.
Ouais, tu bosses beaucoup à ce moment-là.
Ah ouais, je suis tout le temps là. Je rate le concours du conservatoire. L'année d'après, j'ai un petit boulot chez RTL le matin. Je suis standardiste.
Donc là, vu que t'as un peu d'argent, tu retournes en Inde pour en donner un peu.
Non, tu les as laissés crever.
Ok,
non.
D'accord.
J'ai juste été choqué par
la misère. Sur la bienveillance. Ouais, comme tout le monde, je suis choqué.
Il allait les revoir en disant merci, hein, ça m'a vraiment boosté toute votre misère.
Et l'année d'après, je suis au conservatoire du 8e où je rencontre Pauline. C'est une des meilleures années de ma vie artistiquement. Une des pires en termes de sommeil puisque je cumule. Je joue dans une pièce, j'ai des cours et puis je.
Ah, c'est vrai que tu dormais sur un tapis de sport. Il y avait une salle de sport et des fois, entre deux cours.
Tu mangeais des bananes et des carottes.
Tu mangeais des carottes et t'allais te coucher. C'est le type qui dormait.
C'était un peu compliqué. Mais cette année, j'arrive à entrer au conservatoire. Là, je passe 3 ans. C'est formidable. Je suis vraiment outsider parce que je sais pas jouer, en fait. Mais je suis dans. C'est un luxe, en fait, pendant 3 ans que de faire que de l'art. Il y a que ça qui compte, de penser qu'à des trucs qui ne servent à rien. En fait,
c'est un laboratoire.
C'est hyper agréable. C'est aussi le danger de cette école et des écoles d'art en France, c'est que du coup, tu sors, t'es à poil. T'es genre, face à plein de mecs qui savent monter des trucs, faire des dossiers, des trucs, des machins.
T'as rien.
Un profil qui fonctionne bien au conservatoire, c'est le mec qui a fait Sciences Po, puis le conservatoire. Il y en a. Ils sont très, très forts et ils montent des compagnies. Et là, Ils sont partout, ils tournent dans tous les CDN, ils font des pièces incroyables parce qu'ils sont un peu carrés, ils mettent un peu de structure dans l'art. Et quand il y a les deux qui se... Bah, moi, j'arrive avec pas du tout d'art. J'ai raté Sciences Po, mais en sortant de ça quand même, je crois que j'ai un peu de structure. Très vite, je commence à me dire qu'il faut que je fasse mes propres trucs. Je n'ose pas écrire, je n'ose pas jouer ce que j'écris, donc je m'entraîne sur Pauline.
Je sais pas.
Qui est encore au conservatoire et je vais créer un seul en scène qui s'appelle Comme la Lune, qui est un truc un peu inspiré de Cobert, encore pour les théâtres qui nous regardent. Qui est
alors,
genre
Philippe
le...
Cobert, c'est un peu l'inventeur du multipersonnage. C'est-à-dire un acteur ou une actrice centrale sur scène qui joue à peu près entre 10 et 35 personnages, que ce soit du micro-personnage ou des personnages plus élaborés.
Il a fait 7 à 9 spectacles qui, je crois, durent 2 ou 3 heures chacun. C'est ça, les seuls en scène qui raconte sa vie d'acteur. C'est magique. C'est
très émouvant.
Ouais, c'est
très, très
bien.
Top.
Et donc, fasciné par ça, je regarde le spectacle Ariane que j'ai en DVD, que je regarde en boucle. Ouais. Et du coup, j'écris un truc un petit peu comme ça.
Ferdinand.
Pour Pauline, c'est ça.
Moi, je joue des corbeaux, des animaux, des écureuils, un prince, une méchante reine, une gentille princesse, mille personnages. Ouais.
Et à ce moment-là, vous jouez ça dans une petite intimité, comme ça, dans un théâtre du 17e, tu me dis, donc du coup ?
Alors ça, en fait, c'est au conservatoire. Pauline est encore au conservatoire. Moi, je suis sorti, mais je reviens au conservatoire pour la mettre en scène dans ce truc comme un atelier d'élèves. On crée le spectacle ici, et après, on le joue effectivement tout un été dans le 17e arrondissement, un petit théâtre. Et en même temps, moi, je fais Avignon, et toi, pendant ce temps-là, tu le joues. Et donc, je m'entraîne, j'ai une petite validation de dire que les trucs que j'écris peuvent marcher parce qu'il y a des gens qui rigolent quand on joue ce spectacle.
Même si on se rend compte de la galère, parce qu'on sort d'une super école, donc on se dit putain, on est armé. Et là, tout d'un coup, on se dit ah, mais en fait, quand tu joues un spectacle, c'est hyper dur de faire venir du public. Mon nom ne veut rien dire, ton nom non plus. Le titre, Comme la Lune, veut rien dire. Et du coup, on se retrouve à avoir du mal à... On se retrouve à afficher nos affiches dans le quartier, le week-end. Enfin, tout d'un coup, tu te dis comment ramener des gens.
Ils nous ont essayé de nous plumer.
Ils
ont voulu
nous
arnaquer.
Nous recommander. Nous, on était fauchés. J'ai mis tout mon argent dedans. Et vraiment, ils n'étaient pas corrects. Enfin, c'était
ils sont servis du fait qu'on était petits, qu'on était une petite compagnie.
Ils nous ont vraiment écrasés. Quoi. Et ça a été un trauma
pour moi. C'est un peu un classique de ce métier quand on est jeune acteur et qu'on se lance dans une pièce.
Grave.
Si on n'a pas passé par la grande porte, hein, parce que toi t'es passé par la grande porte, excuse-moi, privilégié.
Non, mais c'est vrai que j'ai une chance de ouf de tomber sur des gens super cool.
C'est la grande porte de la fosse sceptique, excuse-moi, tout le monde ne passe pas par là, mon ami. Hein. On n'est pas un privilégié.
C'est vrai.
Et donc il y a ça, il y a ça avec Pauline.
C'est là où ça naît, l'écriture.
Ça naît complètement, et après il y a cette envie justement de YouTube arrive 2011, 2010. YouTube arrive et là tu crées Yes Vous Aime.
C'est ça, j'ai
moi,
passé.
Moi, c'est là que je rentre au français. C'est pendant le spectacle qu'on m'appelle, passe à l'audition.
C'est-à-dire qu'en parallèle d'être au conservatoire, je passe beaucoup de temps sur Internet. Ça a été compliqué. On a fait une première vidéo qui était une parodie de ces vidéos où on apprend à embrasser des filles dans la rue en 3 questions.
Ah oui, c'est vrai, c'était une toute première. Elle était bien.
Tournée de ouf. Et en fait, on fait une parodie de ça où on pousse le cynisme. Il n'y a pas vraiment de principe comique, juste on pousse le cynisme du truc.
Quand même.
À mon sens, ouais.
Mais c'est même un peu ce qu'on trouve aussi dans Brut. C'est genre la démonstration par l'absurde, tu t'hyperbolises tout et tu dis oui, c'est ça en fait qui fait le gars si tu regardes bien.
Mais à l'époque où nous on n'a pas conscience que le public d'internet est hyper crédule. Il est hyper jeune,
Et c'est une bonne chose.
Bah.
J'essaie de te rattraper à chaque fois. En fait, dès que tu dis un truc où les gens vont dire ça, moi je dis attends, et après tu peux réexpliquer en disant alors attendez, une crédulité, une naïveté qui permet de.
C'est juste qu'il faut jouer avec. Pour moi, c'est pas genre c'est bien ou c'est pas bien, c'est que juste c'est le cas. Et alors, je trouve que ça renseigne beaucoup sur les responsabilités qu'il faut avoir de plus en plus. Et que ça renseigne beaucoup sur les responsabilités d'humoriste. Quand des gens disent on peut plus rien dire, c'est juste qu'ils ont pas compris en fait, qu'on s'adresse plus aux mêmes personnes et que du coup ils ont peut-être quitté l'humour. C'est pas plus con, je pense qu'il faut de la contextualisation. On n'a plus des gros médias qui nous disent c'est vrai. Maintenant, on va questionner les médias. On va poser la question de est-ce qu'en fait, on n'a pas une fake news qui est dite en direct à la télé. Je trouve ça intéressant de le questionner et je pense qu'il faut pas tout prendre pour argent comptant, mais c'est assez neuf la question des fake news. À l'époque, la question de la fake news ne se pose pas. Ce qui est montré est forcément vrai. Et il y a des créateurs sur Internet qui utilisent encore cette crédulité-là pour construire des carrières entières sur des mensonges, sur des faux canulars qu'ils prétendent être vrais. Et ce sont des impostures manifestes. Nous, on pensait que si tu faisais un truc, que tu trichais sur Internet, que ça se voyait direct. J'avais cette fois-là.
Surtout qu'il y avait un générique, donc on s'était dit, c'était sûr que c'était des comédiens.
Pardon, pour recontextualiser, parce que je sens que peut-être on allait trop vite là. je crois.
Les gens prenaient ça au premier
vidéo,
degré.
Les gens ont cru que c'était vrai.
On a fait une vidéo donc sur c'est les gens
qui
embrassent.
C'est toi d'ailleurs qui joue le mec principal. Hein.
C'est ça. Toi, on va embrasser des filles dans la rue.
On peut dire un gros connard, en fait.
Voilà, je viens, je suis un gros
d'ailleurs,
connard.
D'ailleurs, c'était marqué, il y avait un truc qui avait été sorti où juste il y avait un extrait et c'était marqué le connard du siècle. C'est et on voyait toi qui tapais une fille.
Tourné sur Facebook, oui. Et ça faisait des millions de vues sur Facebook où c'était moi. C'est pour ça que le questionnement des images, la crédulité d'interroger d'où vient une source, ça c'est un métier d'être fact-checker.
Ah oui, c'est
non, mais il y a eu plein de trucs. Et en fait, on lance la vidéo, donc c'est une parodie, on embrasse des filles dans la rue, on va jusque. Au harcèlement, même encore aujourd'hui, regardez peut-être un peu tiqué. Ça fait un peu. Moi, je suis dans le. Je suis fan de C'est arrivé près de chez vous à l'époque, tu vois. Mais je comprends pas qu'un film de cinéma dans une salle de cinéma, c'est pas pareil qu'une vidéo mise sur. J'apprends le média. Le média et le message, en fait. Ça, c'est un truc que j'ai appris assez tard. Et la vidéo est lancée, elle fait un nombre de vues, c'est incroyable, mais pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est vrai.
Ouais.
Et je me dis, mince alors, est-ce que c'est des bonnes vues? Est-ce que c'est bien ce qu'on a fait? On commence à créer une chaîne YouTube, du coup, on va lancer des trucs. Mais t'as plein de gens qui disent ah, ah, trop drôle de taper des meufs, c'est marrant. Et là, on a quatre.
Faites pas ça chez vous.
Aussi, c'est que personne, il y avait toi et Yoann, personne ne vous connaissait. Du coup, bah non, si tu ferais cette blague, on sait que c'est. Que si quelqu'un te reconnaît, on sait que c'est toi qui joues du.
Oui, ta tête, elle est un peu connue maintenant. Du coup, on se dit.
Ouais.
Alors que là, c'était.
Il est rigolo, lui, c'est un rigolo.
En fait, j'avais pas idée que ce que je faisais était hyper crédible. Et je dis pas ça en mode genre j'ai du talent ou je sais
bien
pas
sûr,
quoi
ouais.
Mais c'était vraiment je ne savais pas que moi je faisais que reprendre le truc. Elle cartonne, elle buzz, on lance la chaîne Yes Vous Aime en parallèle de pièces que je fais de théâtre un peu dans le subventionné où je fais des tournées, je fais du montage dans les trains et on est en autoprod, on sort genre 4-5 vidéos par an, enfin même moins je crois. On a une petite période où on fait un programme avec France Télé. Puisque là, je rencontre Guillaume Crémonez à la sortie du conservatoire et qui me dit « Est-ce que ça te dit de gagner ta vie avec ce métier ?» Et je dis « Bah oui. » Et il me dit « Bah... »
On n'est pas des Indiens. On n'est pas des Indiens.
Il commence à... En fait, il m'apprend à rentrer dans les... Il est ingénieur, Guillaume Crémonez, comme mon père, comme mon frère.
Attends, c'est hyper étrange. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, moi, je n'ai rien là-dessus dans mon bouquin. Je sais pas
qui tue son père. Qui tue son père?
Il me dit, bah voilà, tu vois, tu as toutes les problématiques, on va juste les assembler pour... Il me dit, fais un programme, essaie de créer un programme, et on crée un programme qui s'appelle Duplex, qui est une parodie de Duplex qu'on voit à France Télé, on voit une petite année chaotique au sein d'une émission qui s'appelle L'Autre JT. Mais on rigole, c'est la première fois qu'on a un budget, on a 10 balles, mais on met des perruques, on fait des trucs, il y a un fond vert, et là on se dit, ah, en fait, on a le pouvoir de faire ce qu'on pensait être impossible, on fait des trucs, ils passent à la télé, donc ça...
Puis d'un coup, on a conscience qu'on peut faire des blagues et que les gens vont penser que ça va être vrai, du coup, on avait fait un truc, on était allé dans l'émission, et on avait fait semblant d'être un couple témoin qui venait parler, et moi je disais, oui, moi je le trompe tout le temps, et toi tu disais, ah bon? Et on faisait des jeux comme ça, où tout d'un coup, les gens, on voyait même les gens du public qui étaient genre, oh, et après, ça se transformait, à la fin, les gens disaient, ah ok, c'était... Enfin, bon, du coup, on avait compris que ça allait être pris... Voilà, on avait fait un happening...
Les médias un peu. On n'est pas renouvelé, on continue à faire des vidéos en auto-prod, et on fait cette fameuse vidéo qui s'appelle Ma Bite, qui est un hymne à la phallocratie, où là, on a un peu intégré le cynisme. C'est-à-dire qu'on arrive à l'enrober dans une chanson un peu punk, entraînante, très claire, avec un costume HSBC hyper... ça montre que c'est comique, en fait, et que c'est du foutage de gueule. Ce qui est assez drôle, c'est que du coup, la vidéo est reprise par des gens qui comprennent la dénonciation de ça, et des gens qui ne la comprennent pas et qui, au premier degré, disent que c'est cool d'avoir une bite. Et donc, il y a une espèce de...
Ça plaît aux deux côtés.
J'adore Internet.
Double, ouais. Double message, il y a une viralité.
Du coup, là, ils ont l'air cons.
Voilà, c'est ça.
Donc ça, c'est que c'est tellement parodique que tu dis « Ah, c'est eux qui ont l'air bêtes de croire que c'est vrai. » Alors que c'était plus malaisant quand les gens disaient « Marrant de taper les meufs. »
Voilà, chacun pense que c'est l'autre camp. Enfin, c'est assez drôle.
C'est nuancé, quoi.
J'ai l'impression.
C'est nuancé.
C'est ce que je pense.
On y revient.
Et là, on est contacté par Canal+, qui nous dit « Ah, ben, on cherche des gens du web pour faire des trucs, des programmes en télé. »
Est-ce que vous en connaissez?
Est-ce que vous voulez nettoyer les chiottes?
Comme vous, en marrant.
Et c'est comme ça qu'on a commencé notre aventure avec Canal+. On a fait des émissions sur comédie, et on a fait un programme court sur Canal.
Comme tout se reconnecte, chacun son parcours, là, carrément, le duo est né. Il y a eu les arnaques au théâtre, voilà, il y a eu...
Les chiottes.
Ça se reconnecte. Covid.
Covid, ouais.
Brout. Bureau des auteurs.
Ouais.
Besoin d'un auteur. Et là, ça repart. Et c'est comme ça, cette saison est née.
C'est ça. C'est comme ça qu'on a fait toute la saison.
C'était une bonne intro. On commence l'émission maintenant.
C'est bonjour à tous. Je voulais juste savoir, je voulais juste répéter un petit peu avant, ça vous dérange pas. Voilà,
c'est bien. Ouais, c'est bien quand tu
on
un
bon moment. On peut clapper, on y va.
Ouais. Parce qu'on voulait apprendre à vous connaître avant de démarrer l'émission.
Ouais, je comprends.
Okay. Allez.
On peut commencer.
Et ben voilà, on a réussi à remettre le parcours.
On est pendu à l'heure, parce que moi, je suis dans le chrono.
Est-ce que ce serait pas l'heure de faire un petit multi-blind test?
Oh,
si.
Vous connaissez multi-blind test? Qu'est-ce que c'est de l'avoir le multi-blind test? Multi-blind test!
C'est en fait comme je fais, c'est temporel en fait. C'est, j'ai mis tous les morceaux en même temps.
Okay.
Et il faut deviner
les morceaux.
Il faut dire un. Top. Dès que t'en as un, tu dis
quand
top.
T'en as okay. un, tu dis
et
top.
Après on
l'enlève. Oh, est-ce qu'on sait combien il y en a ou pas?
Il y en a 6.
6
Je me sens mal.
Moi, je reconnais rien.
Merci
à vous.
Merci.
Prenez soin de vous, à bientôt. Bienvenue dans un bon moment.
Il y a Madonna ou pas?
Je pensais qu'il y avait Lara Fabian, mais je l'ai pas dit.
Ah, ça y est, j'en ai
un.
Il y avait un Disney.
Il y a Let It Go.
Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin. C'est comme si je suis.
Ah, j'en ai. Top. Joe Dassin.
Il y a Joe Dassin.
Sur le sable.
Ah, c'est là que t'as capté.
Je crois que j'en ai un. Je crois que j'en ai un.
Gainsbourg ou Grand Corps Malade.
J'étais sur faux, moi.
Il n'y a pas 113.
Il y a 113. C'est un double.
Donc il y a 3
double opération. Il y avait bien l'été indien.
Mais c'est pas bien de dire il n'y a pas.
Et les princes.
Que...
Il y a 113.
Il y a 113.
Yes.
Parce que comme c'est un sample de 113, ça pouvait être aussi la version originale.
Ah, j'étais un petit traître.
Voilà.
Mais je ne l'ai pas, très... j'ai pas fait. Il n'y en a plus que 3.
Let It Be.
Il y a Queen.
Ah ouais.
Top, ouais.
Il y a Let It Be.
Et top. Et Bee Gees.
Et maintenant, pour peut-être ou pas, mais maintenant qu'il y en a deux, il faut dire les deux d'un coup.
Ah.
Top.
Ah bah oui, bah oui.
Bee Gees et Philly Winter. Non.
Non,
ah non, La Rousseau. Putain,
mais... Et voilà.
Ah,
Bee Gees et La Rousseau qui vont bien ensemble, non?
Ouais.
C'est le meilleur moyen de ne pas
là,
se faire avoir par le
c'est
robot YouTube.
Bravo, bravo.
Si on ouais.
bravo.
Ouais.
Qui a gagné?
Bravo. Est-ce que vous avez
je pense que c'est vous.
Peut-être Martin.
Bon, c'est vous qui avez gagné.
Parce que vous
jouez
bien.
Ah ouais,
bon.
Mais j'étais perso. Moi.
Tous contre Kian, ça plaît.
C'est bientôt la fin de cette émission. J'ai juste deux questions à vous poser. J'en ai même une à vous poser. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans la vie?
Bah, on en parlait un peu, mais c'est de faire. C'est de faire et de ne pas se poser de questions. Voilà.
Initie les projets ouais, et ça créera le désir.
Exactement. Eh, c'est d'accord. Exactement ça c'est que ça je voulais dire. Ouais. Non, mais grave, carrément.
N'attends pas.
Oui, voilà. Bah, faut faire quoi. Puis...
Sois pas dépendant des autres.
Au pire, on se plante, c'est pas grave, on aura d'autres idées quoi.
C'est vrai que t'as fait plein de trucs.
Bah, en fait, dès que ça me fait marrer, je me dis, ah ouais, c'est cool. En fait, c'est quand tu dis, j'ai envie de le voir. Tu te dis, ça, je crois que ça existe pas et j'aimerais bien que ça existe. C'est un truc que j'aimerais bien voir. Donc, je dis, bah, tiens, vas-y, on essaye. Puis parfois, c'est pas bien. Bon, bah, c'est okay. pas grave.
Donc, sans se regarder, quoi, on teste et puis on y
bah,
va.
Bah ouais, faut, je crois.
Au pire, tu meurs.
Voilà, c'est ça.
C'est un bon conseil. Pauline, meilleur conseil qu'on t'ait donné. Tu veux un peu de temps? Oui, vas-y, ouais. Bertrand, le meilleur conseil qu'on t'ait donné.
Je sais pas si c'est le meilleur, mais je l'aime bien. Enfin, qu'on m'avait dit à l'époque, il est de moins en moins vrai du coup, parce que le temps passe, mais c'était tu es trop jeune pour te faire des ennemis.
Mais c'est, je pense
c'était à Rome, ça. C'était pendant que t'étais à Rome.
C'est ça qui ouais. est cool. C'est qu'à 70 ans, t'es trop jeune pour te faire des ennemis.
Bah, je trouve qu'il y a aussi l'inverse de dire à un moment, t'es suffisamment vieux pour t'en faire.
Ouais.
Et je.
Je la comprends pas, excuse-moi.
Je trouve ça intéressant.
Tu la développes.
Ouais. Nuance un peu ton propos.
C'est très tranché quand même.
Oui.
Nuance.
Que tu peux payer très cher une crise de passion contre quelqu'un. À un moment, si.
Mais quel est le rapport avec la jeunesse?
C'est ça qu'on ah, le fait qu'après tu vas payer sur le long
gens,
terme. Tu vas
on retrouve les gens.
Ah.
C'est une autre manière de dire méprise pas les gens quand tu montes parce que quand tu redescends,
oui, je vois tout à fait,
sont,
ouais.
sais pas quoi. Tu vois. Ouais. C'est une autre manière de le dire que je trouve assez jolie parce que je la trouve éminemment plus politique quelque part. T'es trop jeune pour se faire des ennemis, ça veut dire fais-toi des amis aussi. Mais je trouve que ça remet un peu en place parfois et je trouve qu'il y a une notion intéressante politiquement. Alors c'est peut-être un peu cynique, mais je trouve ça assez beau.
Oui, ça dépend pourquoi tu le dis. Si c'est dans le sens sois pas méchant, c'est cool. Si c'est dans le sens ne te fâche avec personne, comme ça tu pourras bien niquer tout le monde après parce qu'il te faudra des alliés pour diriger la France. C'est pas la même chose.
C'est comme l'énergie nucléaire, ça dépend de ce qu'on en fait.
Tu l'as dit avec un sourire un peu méchant. Qu'est-ce que j'en fais ? Ça dépend ce qu'on en fait.
À tous les gens qui pensent bien s'entendre avec toi se posent la question.
Ouais. Est-ce que allô, c'est sincère ? T'es encore trop jeune ou... Quand tu te fais rencontrer,
Pauline ?
Et moi, alors je sais pas, c'est un peu abstrait, mais des fois j'ai l'impression que c'est bien d'aller vers le truc que... Enfin, tu sais, des fois on se dit, ah, je sais pas, ça va être compliqué à expliquer. On se dit, ah là, je me sens bien là-dedans, mais je me sens pas bien là-dedans, donc je vais vraiment essayer de m'améliorer dans le truc où je suis nulle. Et je pense que des fois, c'est bien d'aller un peu vers là où t'es attrapé. Je sais pas, des fois, il y a des parcours de gens qui disent, voilà, je voulais être.
Parcours de fait.
Renforce tes forces plutôt que de vouloir à tout prix combler tes lacunes.
Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on va plus vite comme ça parce que bah, rien que moi, à l'école, j'ai passé tellement. Si on m'avait tout de suite mis dans un truc artistique, faire de la danse toute petite ou je sais pas, je pense que ça aurait été plus clair. Mais là, on a essayé de m'acharner à faire des trucs où des fois, t'entends des parcours de personnes qui te disent, voilà, je voulais être chanteuse et puis j'ai écrit des chansons drôles, puis en fait, on m'a appelé pour être humoriste, et en fait, je suis humoriste. Des fois, je me dis, c'est bien d'aller quand tu sens une porte qui s'ouvre, un truc.
Va au plus facile,
foncer,
quoi. Va au plus facile.
Va au plus facile que se mettre. Non, mais des fois, il y a des trucs où tu sens que. Par exemple, tu sens que tu peux passer une nuit sur un montage, mais par contre, lire ce bouquin de Proust, non, ça va pas le faire. Bah, fonce dans ce qui te plaît.
Ouais, mais ça revient aussi un peu à faire les choses qui te passionnent parce
que
ça te passionne.
L'amusement.
Ouais.
Vous avez dit un peu tous les trois ça, j'ai l'impression.
C'est vrai.
Clairement.
Il y avait un truc de. Je galérais à être moyen parce que ça ne me passionnait pas. Toi, c'était l'école, ça ne me passionnait pas. Lui, bon, il adorait récurer les chiottes.
Mais il s'est dit à un moment, je vais peut-être essayer autre chose quand même.
Non, mais c'est vrai que souvent, moi, je suis assez d'accord. Je suis d'accord avec vous trois.
On est d'accord.
Tu as tendance à vouloir absolument surcompenser là où tu es moyen, là où tu n'es pas bon, plutôt que de renforcer là où tu es trop fort.
Mais il y a même...
Moi, j'ai dit, je sais écrire, ouais. Le reste, je m'en fous. Donc, vraiment, je voulais que écrire. Et donc, j'ai vraiment fait clac. Et après, le reste, on verra plus tard. Je ne me suis pas dit, il faudrait que je sois musclé aussi. Tu vois.
Tu vois, moi, je suis très rassurée par les geeks. Quand quelqu'un me dit « Salut, je suis un geek », je suis genre « Ah, cool, il va être très fort dans son domaine. »
Il
va
être passionné.
Ça va être le plus fort. Tu sens tout de suite, tu dis « Il n'est pas sur son physique, il n'est pas sur son machin. » Mais par contre...
Vous n'avez pas l'impression aussi, pour aller plus dans ce sens que tu racontes, c'est quand vous écrivez, même un truc qui marche, je trouve qu'il marche bien comme Brute et tout, vous dites « Putain, c'est ouf, on ne s'est pas tant forcé que ça pour que ça sorte. » À part quelques épisodes qui ont dû être très complexes, je pense, même financièrement. Mais sinon, tu vois, il y a une sorte de... On s'est amusé, on s'est marré à le faire, on l'a pensé, c'est parti, et ça marche.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de recette. Enfin, c'est qu'on ne sait pas à l'avance si ça va marcher ou pas.
D'accord.
Ça, c'est vraiment... c'est sûr, c'est...
Mais il y a des prédispositions à s'amuser à le faire.
Ouais, mais moi, il y a des moments, ça me... C'est bizarre, il y a des moments, ça me gêne un peu, moi. Quand ça a été trop facile et que ça marche, je suis un peu en mode genre...
Ouais.
Alors que moi, pas
bizarre,
du tout.
Ouais,
je comprends. Le fait qu'il n'y ait pas de lien entre à quel point tu t'es pris la tête.
Ouais.
Il n'y a pas de lien entre à quel point j'ai bossé dessus, à quel point.
Tu dis c'est injuste un peu, est-ce que c'est pas.
Mais comme t'as l'inverse aussi, des fois tu te prends la tête de ouf et ça marche moins bien.
Ça se gaufre,
pour moi, ça s'équilibre.
Ouais, exactement.
Vu que je ne sais pas ce qui va marcher ou pas, des fois je me prends la tête, des fois pas. Des fois ça marche, des fois pas, et c'est pas lié.
Ouais.
Autant tout faire.
Bah c'est ça, faut tout faire et débrancher quand c'est publié.
Est-ce que vous pouvez recommander un artiste ou une œuvre que vous avez aimé récemment?
Moi je vais.
Là, il y a un sourire complice.
Moi je vais recommander. Bah, c'est du théâtre et ça joue à Paris, mais je recommande pour les Parisiens. C'est La Course des Géants
avec
mon ami Jordi Le Bolloc.
Jordi Le Bolloc.
Voilà, qui joue au théâtre des Béliers, parisien, avec des chiottes propres. Vous m'en direz des nouvelles.
Arrête de parler de ça. Ça devient relou.
Tu parles tout le temps de chiottes.
Non, vraiment, la pièce est super cool. Et voilà.
Ok, top. Pauline, tu as une chanson, un texte que tu aimes ?
Je réfléchis. Ah si, j'ai découvert une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Georges K.
Georges K.
Ouais, et j'étais contente parce que souvent sur mon Spotify, j'ai toujours un peu les mêmes personnes. Je tourne un peu en boucle. Je suis toujours, et j'adore, mais j'écoute beaucoup Clara Luciani. Je me retrouve un peu en boucle. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est dur des fois de découvrir des nouvelles chanteuses. Et elle a fait j'espère que j'ai pas écorché son nom, mais je crois que c'est Georges K. Elle a fait une chanson sur Saigon qui est super belle.
D'accord.
Et je me suis mis à écouter ses chansons. Et il y en a pas encore beaucoup. Il y a genre peut-être un album ou deux. Et je me suis dit, ah, c'est chouette d'avoir des nouvelles personnes à écouter.
L'algorithme de Spotify, je crois que c'est un des meilleurs, parce que vraiment, si tu cliques sur une chanson, après, il t'en donne d'autres dans la même vibes, et tu dis...
Ah, c'est trop cool, ça.
Ouais, des fois, tu fais des découvertes.
C'est quand même vachement bien. Bertrand ?
Moi, j'ai lu le livre de Corinne Sombrin, qui s'appelle « La diagonale de la joie ». C'est drôle, parce que je suis hyper cartésien, hyper rationnel, voilà, mon côté ingénieur raté. Mais c'est une exploration de la transe chamanique. C'est une dame qui a fait une première transe chamanique en suivant des chamans en Mongolie et qui se bat depuis 18 ans pour faire reconnaître la transe comme un objet d'étude scientifique occidentale. Et c'est bouleversant à plein de points de vue sur qu'est-ce qu'une transe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on ignore, qu'est-ce qu'on pense que c'est, que ça ne doit pas être. Je trouve qu'il y a une écriture qui est vraiment entre la poésie et la revue scientifique. C'est vraiment un joyeux mélange des deux qui fait... Une jolie entrée.
C'est ce truc, cette porte ouverte sur l'esprit qui est ferme, qui s'ouvre. Moi, j'ai jamais fait ça, mais ça m'effraie, mais tellement de me dire.
Moi, c'est bizarre parce que j'ai toujours été très intéressé par
le contrôle. T'es vachement dans le contrôle, Bertrand.
Ouais.
Ça se voit dans ce que vous faites. C'est très contrôlé, quoi.
Oui.
Et j'ai très maîtrisé dans ton
jeu. En fait, j'essaie de conquérir l'autre côté parce que je sens qu'il y a des trucs à avoir. J'ai moi-même eu des épisodes un peu. Je sais pas si c'est vraiment des trans, mais. Si j'ai eu des épisodes comme ça récemment, parce que je pense que j'ai besoin d'aller vers là, et c'est un truc que j'ai envie d'approfondir. J'arrive à hypnotiser des gens, mais j'ai jamais été hypnotisé. Mais c'est un truc où il y a des portes de perception qu'on ignore vraiment comment ça fonctionne. On commence un peu à se renseigner là-dessus. Je trouve ça hyper dommage parce que je pense que ça résoudrait vraiment beaucoup de problèmes à plein d'endroits.
Ok. C'est une forme d'ouverture de la psyché pour débloquer des choses.
Oui, à destination des gens rationnels comme moi.
Ah, d'accord, ok, très bien.
Vraiment.
Navus ?
Moi, c'est un livre qui s'appelle « Pourquoi la transe n'existe pas ?» Démonstration en 16 points pour les gens réellement cartésiens. C'est super. C'est fait par Jean-Michel Tatillon. Non, si, tiens, Inside de Bo Burnham.
Bah oui.
Inside de Bo Burnham, voilà. Netflix.
Bien sûr.
Non, n'allez pas voir, ça rend triste tellement c'est fort.
Moi, je vous recommande Diego Alari sur TikTok. J'adore ce gars. C'est un mec, si vous voulez apprendre dans la cuisine, il fait des petits trucs sympas. Et franchement, j'ai kiffé. J'ai appris plein de trucs avec ce gars-là. Alors, il est très connu, hein, il est très populaire. Mais voilà, j'aime la vibes du gars, je le trouve sympa et ça m'a voilà, c'est un peu plus léger.
Ça a l'air toujours super simple, ouais, pas, la bouffe sur TikTok.
Salut, genre, je vais te montrer un truc, c'est super secondes. Bien, du coup, pardon, tu mets de la farine, tu mets un œuf, machin, et c'est
des ultra cool faritas super fondantes.
J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pourquoi ? Il y a plein de raisons, voilà. Ça nous fait plaisir. Mais non, parce que c'est pas vraiment de l'argent, les abonnements, c'est plus de la recommandation. En fait, c'est plus la chaîne, il y a d'abonnés, plus YouTube met en valeur la chaîne et plus ça remonte dans la recommandation. Donc, ça peut promouvoir aussi le fait que vous aimez cette émission. Si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou mettre des commentaires positifs. Ça fait recommander l'émission aussi pour les gens qui ne la connaissent pas. Si vous voulez nous soutenir, c'est très simple. On a quoi ? On a
une bonne boutique.
Unebonneboutique.com,
une boutique
c'est du merch,
où il y a
des cadeaux.
Plein de trucs trop bien.
Plein de trucs trop bien.
Des t-shirts, des prints, de bloqués, de brefs, de Kian Kojandi.
De pulsions, il y a plein de choses.
De
trop
choses
cool,
à venir. Amusantes. Et même des éditions et tout, genre avec Ben Mazué.
Exactement.
Trop bien.
Exactement, plein d'artistes qu'on kiffe.
Plutôt les
ça nous aide à produire un peu l'émission.
Moi, je veux les trucs brefs bloqués, ouais. Serge en priorité, parce que je touche des sous dessus.
On espère que vous avez passé un bon moment.
C'est comme
nous,
le Téléthon,
cool.
Quelque part, mais pour des gens déjà riches.
Exactement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les amis ? Vous avez passé un bon moment ?
Mmh. Très bon moment.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Prenez soin
merci.
De vous. À bientôt.
C'est pour faire rigoler des gens.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.